d'ouvrir notre séance du Conseil municipal. Je voudrais d'abord présenter les pouvoirs qui m'ont été adressés. Youri Philippe est représenté par Édouard Abon ce soir, qui sera donc le Benjamin de l'Assemblée ce soir. Rémi Grand, représenté par Daniel Maire. Aline Triolet par Nicole Lesage. Astrid Tussaud par Jonathan Rodriguez. Michel Brixy par Catherine Crozat. Sébastien Durançois par Chantal Clément jusqu'à son arrivée. Et Cindy Demange est excusée. Je laisse les quelques instants à nos collègues pour nous rejoindre. Il nous faut désigner un secrétaire de séance comme le veut l'usage. Je vous propose donc la candidature d'Edouard Abon, qui a le privilège ce soir d'être le plus jeune de l'Assemblée. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 2 et je passe la parole à Christine Mazzi pour nous parler du rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes 2018.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc en application de l'article L2311-1...
On t'entend pas tellement, c'est...
Je sais pas.
Rapproche un peu.
C'est Joachim qui fait du bruit.
Comme d'habitude.
Et ça va mieux là? Oui,
oui.
C'est bon. Merci. Donc en application de l'article L2311-1-2, le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur notre territoire. Les statistiques qui figurent dans le rapport qui vous a été joint présentent la répartition des effectifs municipaux permanents, puisque les effectifs non permanents sont soumis à des variations trop importantes. Donc ce rapport est établi au 31 décembre 2017. Le rapport que nous vous avions présenté l'an dernier avait été établi au 31 décembre 2015, puisque c'est un rapport qui est établi tous les deux ans. Dans ce rapport, nous pouvons remarquer qu'à compétences et expériences égales, la parité est favorisée au sein des équipes et des services, puisque des aménagements ou des acquisitions d'équipements spécifiques pour limiter le port de charge, par exemple, sont proposés par les services en lien avec la politique de prévention des risques professionnels qui est développée par la collectivité. Néanmoins, certains métiers ou domaines d'activité, comme vous avez pu le remarquer, restent très, ce qu'on peut dire, genrés, puisqu'on remarque, par exemple, la petite enfance, notamment les ATSEM, sont essentiellement des femmes. Et puis, dans les métiers à vocation technique, au niveau des ateliers municipaux ou de la propreté urbaine, il s'agit pour la majorité d'hommes qui composent ces services. On peut quand même noter toutefois quelques femmes qui sont dans les services techniques, puisque dernièrement, la directrice des bâtiments est une femme qui vient d'arriver dans notre collectivité, Marie-Charlotte Giraud. L'équipe de direction et les postes de chef de service sont majoritairement féminisés, ce qui démontre une réelle capacité d'accès aux postes à responsabilité pour les personnels féminins. Et je serais tentée de conclure que nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent.
Merci. Je voudrais également signaler que dans l'équipe de direction, hormis Frédéric Girardin, ce sont tous des femmes, donc il a beaucoup de mérite de défendre seul la gente masculine. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Madame Perrin.
On peut toutefois quand même remarquer que la majorité des gens précaires, des agents précaires, sont parmi les femmes, quoi.
Qu'est-ce que vous appelez précaire?
Non titulaire.
Non titulaire,
oui. Ah, non titulaire. Oui, les contrats courts, enfin les...
Et puis les temps partiels aussi, qui ne sont pas forcément du temps partiel choisi.
Oui, mais qui correspondent parfois à des missions très spécifiques. Je pense aux agents de surveillance de cantine ou de choses comme ça, qui sont effectivement des temps très particuliers. Nous avons fait de gros efforts de titularisation ces dernières années. Nous avons toujours une petite partie de l'effectif qui effectivement vient en appoint, vient faire la jonction entre deux services. Et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de collectivités. Hein. Donc, alors selon les sujets, on a plus souvent des agents de sexe féminin ou parfois sur d'autres problématiques. Je pense à des emplois, notamment dans les espaces verts, des emplois saisonniers. On va retrouver par contre plus souvent des hommes que des femmes. Bon, c'est un peu encore, je ne vais pas dire la loi du genre, mais ça fait encore partie des éléments sur lesquels on notera une différence sensible entre les emplois attribués aux uns et les emplois attribués aux autres.
Et en ce qui concerne les temps partiels, il y a effectivement plus de femmes dans des contrats avec, à temps partiel, puisque ce sont essentiellement des femmes. Souvent, les 80%, ce sont des femmes qui sollicitent un temps partiel.
Je voudrais souligner également, ça ne figure pas dans le rapport, mais j'ai pu l'observer lorsqu'on a présenté le dispositif Vitalité, Santé Vitalité, que de nombreuses femmes y participent. C'était un des objectifs que nous souhaitions. Vous savez que ce dispositif, il a été mis en place à partir des vacances de la Toussaint pour faire en sorte que nos agents puissent avoir une activité sportive dans la semaine. L'objectif, ce n'est pas de les amener à la compétition, encore que si certains veulent reprendre le sport et s'y impliquer fortement, bien entendu, ils auront la possibilité de le faire dans les clubs. Mais l'objectif, c'était surtout de prévenir des problèmes de dos, des problèmes de posture, des problèmes d'ordre squelettique qu'on rencontre parfois lorsque, dans son travail, on a de mauvaises positions. Et puis, l'initiative visait également à permettre à certains de nos agents, notamment à beaucoup de femmes qui, finalement, quand la journée de travail se termine, enchaînent immédiatement avec la journée familiale, qui est aussi extrêmement lourde. Et on a pu noter un intérêt d'un certain nombre de nos agents féminines, même en grand nombre, précisément parce que cela permet aussi d'avoir un petit peu de temps à elles, de s'entretenir physiquement, de partager aussi un moment de convivialité, parce que ces ateliers sportifs sont des ateliers qui créent aussi du lien entre les agents venant d'horizons différents, qui n'ont pas l'occasion de se croiser dans leur mission professionnelle et qui trouvent là, autour d'animateurs, une ambiance, un moment de détente, un moment où on se fait aussi un peu du bien. Et j'ai noté qu'il y avait une très forte présence féminine dans ces ateliers, ce qui est aussi, à mon sens, une excellente chose, parce que ce sont très souvent les femmes qui avaient le moins de temps pour avoir une activité sportive en dehors de leur activité professionnelle ou de leurs activités familiales qui sont, on le sait tous, très, très prenantes. Pas d'autres interventions sur le sujet ? Oui, Marc Lefebvre ?
Simplement, j'ai relevé que dans les emplois non titulaires permanents, on est 15 points au-dessus de la moyenne nationale dans la fonction publique des collectivités locales.
C'est possible. Bien, s'il n'y a pas d'autres rapports, je vous propose de passer au rapport d'orientation budgétaire, qui est donc le rapport suivant. Mes chers collègues, comme tous les ans, nous allons donc tenir ce débat dont l'organisation est prévue par les textes. En ce début d'année 2019, ce débat se déroule dans un contexte particulier, marqué par des mouvements à l'échelle nationale, mêlant à la fois des revendications sociales, des interrogations institutionnelles, voire des remises en cause sociétales. Face à cette situation, l'État a décidé dans un premier temps de prendre des mesures concernant le pouvoir d'achat de certaines catégories de Français, en priorité les travailleurs pauvres et les retraités les plus modestes. Ces décisions nécessaires auraient un coût estimé à 10 milliards et ont modifié le budget de l'État, dont certaines caractéristiques diffèrent de celles du projet de loi de finances résumé dans la note que vous avez reçue. Donc, si vous notez quelques différences, c'est tout simplement parce que cette évolution est intervenue du côté de l'État. Le gouvernement s'est ensuite souvenu qu'il existait des corps intermédiaires en France et s'est tourné vers eux, en particulier pour qu'ils participent au grand débat national qu'il a souhaité lancer. Même si ce n'est pas tout à fait l'objet de notre débat d'orientation budgétaire, je profite de mon intervention pour vous indiquer que notre collectivité mettra en place les conditions permettant aux Sparnassiens qui le souhaitent d'y participer. Une fois, bien sûr, que nous y verrons plus clair sur les modalités envisagées par l'État. Vous avez, comme moi, entendu, enfin, d'abord lu peut-être la lettre du président hier, entendu les premières réactions de ce matin. Nous attendons de savoir quels seront les référents qui auront à conduire ces débats. En tout cas, la ville d'Épernay fera en sorte d'assurer, par la mise à disposition de locaux, de moyens techniques, le cas échéant, le bon déroulement de ce débat qui me semble nécessaire. Par ailleurs, le recueil citoyen disponible dans le hall de l'hôtel de ville depuis le 17 décembre dernier permettra de poursuivre la collecte des contributions des Sparnassiens qui voudraient exprimer des avis ou des propositions sur la situation de notre pays. Ce document sera évidemment, comme ça a été indiqué lorsqu'il a été placé dans le hall de l'hôtel de ville, adressé à Monsieur le Préfet. Je voudrais sur ce point indiquer que, puisqu'il y a débat sur les thématiques de ce grand débat national, qu'un certain nombre de remarques qui figurent dans ce document, dans ce recueil citoyen, correspondent aux thèmes qui ont été évoqués dans la lettre du président de la République, pas tous, mais un certain nombre d'entre elles, ce qui veut dire que ces thèmes, j'allais dire, recouvrent au moins en partie les questions que se posent les Français, et je suis sûr que ce débat national permettra d'évoquer bien d'autres questions que celles qui figurent dans la lettre du président de la République. Pour en revenir à la situation économique, Celle-ci se révèle aujourd'hui un peu différente de celle exposée dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement. En effet, comme le titrait récemment un célèbre journal du soir, la France renoue avec une croissance molle. Les tensions sociales que connaît notre pays depuis 2 mois, mais aussi le ralentissement en Europe, ont conduit l'INSEE à réviser ses prévisions. Pour 2018, la croissance ne sera finalement que de 1,5% et l'hypothèse d'une croissance à 1,7% pour 2019 s'éloigne de jour en jour. Par ailleurs, si le pouvoir d'achat devrait progresser en moyenne de 2% cette année, le taux de chômage qui s'établit à 9,1% de la population active en décembre 2018 devrait rester proche des 9% au printemps prochain. S'agissant des collectivités locales, la prudence demeure toujours de mise. Outre la poursuite de la baisse de nos dotations, il est vrai à un rythme inférieur à celui que nous avons connu ces dernières années, l'imbroglio autour de la taxe d'habitation demeure. Pour les contribuables, ils ne savent toujours pas à ce jour si sa suppression envisagée en 2021 concernera 80% des assujettis ou la totalité de ceux-ci. Le renvoi de ce sujet au grand débat national retarde d'autant la clarification sur ce point que le président de la République semblait pourtant avoir tranché. Pour les collectivités, elles ne savent toujours pas quelle sera la réforme de la fiscalité locale envisagée par l'État, alors que les principes devaient en être annoncés au printemps dernier. Elles ne savent pas non plus comment sera préservée leur autonomie fiscale, point qui préoccupe, comme vous le savez, de très nombreux élus locaux, quelle que soit leur sensibilité politique. C'est dans ce contexte à la fois difficile et confus qu'il nous faut aborder le budget primitif pour l'exercice 2019. Après mon intervention, Christine Mazzi, en charge des finances au sein de l'équipe municipale, va revenir très précisément sur les indicateurs statistiques et financiers de notre futur budget. Elle pourra alors vous apporter des précisions qui vous seraient encore nécessaires. Je vais donc pour ma part rappeler les contraintes qui ont pesé sur nos choix et présenter les solutions que nous avons mises en œuvre afin de poursuivre l'action de notre collectivité pour les Sparnassiens et le développement de notre ville. Examinons dans un premier temps les recettes de notre futur exercice. Si la hausse légère de notre dotation de solidarité urbaine pourrait constituer une bonne nouvelle, elle n'est que le résultat de l'écrêtement de notre enveloppe de DGF. En d'autres termes, l'État continue à nous faire les poches, même si c'est avec plus de retenue, puisque la baisse se comptait en millions entre 2012 et 2008. Elle sera encore de près de 147 000 euros cette année et nous perdrons également 31 000 euros supplémentaires au titre du fameux FPIC. Dans le même temps, nos recettes réelles de fonctionnement restent globalement stables avec une légère progression de 0,66%. Cette progression traduit la revalorisation de 2,2% des bases fiscales décidées par le Parlement lors de l'adoption du projet de loi de finances pour 2019. Elle intègre également les subventions attendues pour contribuer au financement de l'accueil du Tour de France, mais elle prend aussi en compte la baisse des participations de la CAF et de l'État du fait du retour à la semaine de 4 jours dans les écoles d'Épernay. S'agissant plus particulièrement de nos recettes fiscales, la réévaluation du montant attendu provenant des droits de mutation ou de taxes de séjour traduit une bonne santé de l'immobilier et la progression de l'activité touristique à Épernay. Malgré cela, le montant total des recettes fiscales sera en baisse et s'établira à une somme de 30,47 millions. Cette baisse est liée à la diminution des attributions de compensation provenant de l'intercommunalité. Il s'agit là de l'application mécanique des règles régissant le transfert de l'Office du tourisme à l'agglomération, transfert qui est effectif depuis le 1er janvier dernier. Pour autant, nous conservons le cap que nous nous sommes fixés il y a maintenant de nombreuses années. En 2019, les taux communaux d'imposition n'augmenteront pas, et ce pour la 14e année consécutive, avec, ne l'oublions pas, 2 baisses décidées en 2007 et 2008. Par ailleurs, nous maintiendrons notre politique volontariste d'abattements fiscaux, plus favorable que les obligations légales, notamment en faveur des familles. S'agissant toujours de notre fonctionnement, nous poursuivrons nos efforts pour assurer la maîtrise des dépenses. Leur progression sera limitée à 0,9%, soit nettement en dessous de l'inflation attendue en 2019, inflation estimée à 1,4%. Cette progression traduit essentiellement une hausse de la subvention versée par la ville au CCAS, aux dépenses liées au Tour de France et à la montée en puissance du futur musée de vin de Champagne et d'archéologie régionale, celui-ci se traduisant notamment par un certain nombre d'embauches. L'effort de maîtrise de la collectivité en matière de fonctionnement va permettre en particulier de maintenir son autofinancement à la même hauteur que les exercices précédents, c'est-à-dire 5,25 millions d'euros. C'est d'ailleurs un des points très positifs qu'avait souligné la Chambre régionale des comptes lors de son récent contrôle présenté l'an dernier en Conseil municipal. La CRC avait également relevé le caractère particulièrement sûr de la dette de la collectivité, tant pour le choix des emprunts souscrits que du niveau global de l'encours. Aussi, comme l'an dernier, au regard des opérations à mener, en particulier l'achèvement du musée, nous vous proposerons de faire progresser notre encours de 3 millions d'euros. Grâce à notre autofinancement, dont le montant est particulièrement élevé, notre capacité de désendettement s'établira ainsi à 7,8 années. Ce niveau reste très éloigné du plafond national de référence que le Code général des collectivités territoriales, récemment complété, situe entre 11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants. Ce critère, que nous présentons d'ailleurs depuis de nombreuses années lors de nos débats d'orientation budgétaire, est apparu au législateur plus significatif que le montant de l'encours. En effet, il lie la dette à la capacité de la collectivité à la rembourser. Plus clairement, il permet de confirmer que notre collectivité a su se ménager les moyens de ses ambitions. Dernier point notable du budget qui vous sera présenté dans quelques semaines, les dépenses d'équipement de la ville continueront à progresser en 2019. Les efforts de gestion de la collectivité et les subventionnements mobilisés vont nous permettre d'atteindre un niveau de 17,6 millions d'euros. Il s'agit, et ce n'est pas anodin, du montant le plus élevé depuis le début de l'actuel mandat municipal, mais également des deux mandats précédents. C'est le travail conjoint des élus et des services municipaux qui a permis de dégager les marges de manœuvre nécessaires sur le fonctionnement de la collectivité et qui a rendu possible ces investissements particulièrement importants. En effet, il faut souligner que ce résultat est obtenu sans faire exploser la dette de la ville et en finançant une part notable de ses dépenses sans recourir à l'emprunt grâce à notre autofinancement. À la fin du mois, le vote du budget permettra un examen détaillé des actions municipales, tant en matière d'investissement que de fonctionnement. Parmi nos investissements figureront les opérations suivantes. Les travaux de réhabilitation du château Perrier pour achever sa conversion en musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. La poursuite de notre programme voirie avec notamment la fin du chantier de l'avenue Jean Jaurès attendu par de très nombreux Parnassiens. Les études concernant l'opération Cœur de Ville, projet ambitieux qui doit faire du centre-ville et du futur quartier Berge de Marne le cœur vivant de notre ville. La prise en compte des investissements du budget participatif qui démontre que la démocratie participative est déjà une réalité à Épernay. Ces investissements auront lieu dans un contexte d'adoption de la révision de notre PLU qui ouvrira de nouvelles perspectives d'aménagement et de développement. Comme vous le voyez, en 2019, nous restons fidèles aux principes budgétaires que nous avons définis depuis plusieurs années, maîtrise des dépenses de fonctionnement, stabilité de la fiscalité et haut niveau d'investissement de la commune. La constance de nos choix nous permet de garantir aux Sparnassiens un cadre de vie de qualité et de réunir les conditions assurant à Épernay de nouvelles ambitions pour l'avenir. Je laisse maintenant la parole à Christine Mazzi, dont la présentation va compléter et préciser mon intervention s'agissant notamment de la situation financière de la collectivité. Et ensuite, évidemment, nous ouvrirons le débat. Christine, je te laisse la parole.
Donc, effectivement, nous avons préparé quelques slides pour illustrer les propos qui viennent d'être tenus. Donc, un petit rappel concernant le contexte général. Donc, une prévision de croissance du PIB de 1,7%. Le prélèvement du fonds de péréquation national qui reste identique à celui de 2018. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui entre dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée. Le montant national de la DSU qui est en hausse de 90 millions d'euros. Et la valorisation des bases fiscales de 2,2%. Donc il s'agit d'un contexte national, hein, pas en ce qui concerne notre collectivité, bien évidemment. Donc, en ce qui concerne notre collectivité, un premier tableau qui va nous faire un petit rappel sur l'évolution du FPIC, hein, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales. Donc, au niveau national, comme ça vient d'être dit, le montant de l'enveloppe du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales est gelé à 1 milliard d'euros depuis 2018, puisque c'était annoncé dans la loi de programmation 2018-2022. Pour notre collectivité, il s'agit d'une péréquation horizontale. Donc là, on voit qu'il y a une petite augmentation entre l'année 2018 et puis les prévisions pour l'année 2019. Donc cette péréquation horizontale représente près de 7 points de fiscalité. Le montant prélevé sur la période 2012-2018 qui figure sur le graphique représente 5,5 millions d'euros. La petite baisse qui figure entre 2016 et 2017 correspond au passage de notre collectivité ou à l'intégration de notre collectivité dans l'agglomération d'Épernay. Alors, ce graphique-là est un peu plus complexe. Donc, On voit, en ce qui concerne la couleur verte, donc le plus important, il s'agit de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Donc, si l'on regarde les deux dernières années, en tout cas le réel 2018 et puis ce qui est prévu dans nos prévisions 2019, on remarque que la prévision est stable par rapport à 2018. Alors, stable sur le graphique, même si, puisqu'on a des chiffres, on voit 2,8 millions d'euros, on passe de 3 millions d'euros à 2,8 millions d'euros, donc une légère diminution de la dotation globale de fonctionnement. En jaune, il s'agit de la dotation de solidarité urbaine, qui reste stable avec une petite baisse quand même de 160 000 euros. Ensuite, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui, comme je l'ai dit précédemment, entre dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée. Cette baisse est estimée à moins 26 000 euros, donc ce qui représente à peu près 4%. Le rectangle bleu, ensuite, que l'on voit, le bleu clair qui est encadré, il correspond en fait au montant des attributions de compensation. Comme vous le savez, lors de l'intégration de la ville d'Épernay au niveau de l'agglomération, un certain nombre de compétences ont été transférées. Donc, pour le coup, certaines des impôts économiques ont bien sûr été transférées. C'est des impôts qui ne sont plus perçus par la collectivité, mais par le biais des attributions de compensation, elles nous sont reversées par l'agglo. Et puis, vous voyez, jusqu'en 2017, un petit rectangle rouge en pointillé. Donc, il s'agit de la contribution au redressement des finances publiques qui a été initiée en 2014, qui apparaît en 2014 pour un montant de 300 000 euros, et qui disparaît en 2017. Pour autant, ce sont des sommes, bien sûr, qui ont été prélevées au niveau de notre collectivité, qui ne le sont plus, mais qui, pour autant, ne réapparaissent pas. Donc, nous ne l'avons pas remis, puisque ça a été terminé en 2019, mais c'est toujours une somme qui a disparu des dotations.
Ce croquis montre bien le désengagement de l'État. Alors, il vaut pour Épernay, il vaut pour d'autres collectivités.
Pour toutes les collectivités.
Je ne veux surtout pas considérer que notre collectivité est plus à plaindre que les autres, mais il montre bien la lente et régulière érosion des financements de l'État depuis toutes ces années. Et je crois que si on était remonté avant 2011, on aurait pu constater déjà un premier décrochage à l'époque, ce qui est un vrai problème parce que c'est une forme de remise en question de la décentralisation, sachant que on peut justifier par ce désengagement de l'État par la situation financière de l'État lui-même et non pas par la situation des collectivités. Je rappelle que les collectivités sont gérées à l'équilibre et que s'il n'y avait eu à prendre en considération que la seule situation des collectivités, on serait aujourd'hui dans une situation parfaitement saine. C'est donc bien l'État qui est incapable de maîtriser ses déficits, je pense au déficit de l'État ou au déficit de la sécurité sociale, et qui donc pompe une partie des moyens qui allaient jusqu'ici aux collectivités, ce qui évidemment, sur un mandat, représente un cumul de sommes extrêmement importantes.
Oui, puisqu'on voit qu'entre 2012 et 2018, au niveau de la dotation globale de fonctionnement, on a 3,8 millions d'euros qui ont été prélevés. Alors, en ce qui concerne l'évolution de la fiscalité à pouvoir de taux, donc il s'agit des taxes d'habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti, et puis la cotisation foncière des entreprises. Donc, la loi de finances prévoit une revalorisation des bases locales au niveau de l'inflation connue en novembre. Donc, cette revalorisation est de 2,2%. Dans cette projection, le produit fiscal attendu en 2019 au titre des quatre taxes que je viens de citer s'élèverait à 16,9 millions d'euros. Sans augmentation des taux. Il faut noter que, suite au transfert de la fiscalité professionnelle à l'agglo, suite à la fusion, notre pouvoir de taux, bien évidemment, a diminué. En ce qui concerne les autres recettes fiscales, donc c'est illustré, je termine, c'est illustré sur le graphique, puisqu'on voit qu'à partir de 2016, la partie CFE n'existe plus sur le graphique. Pour autant, il y a des compensations, des attributions de compensation, comme on l'a vu sur le graphique précédent. Il y a également d'autres recettes fiscales, comme ça a été dit précédemment. Les droits de mutation 2019 qui sont réévalués au même titre, au même niveau en tout cas que 2018, ce qui correspond à la tendance nationale. Ils sont estimés à 780 000 euros. La taxe sur l'électricité, elle aussi, sera ajustée au montant perçu en 2018, soit 520 000 euros. Autre taxe, la taxe de séjour, qui est en augmentation compte tenu de l'instauration d'un taux sur les hébergements en attente de classement ou sans classement, et surtout la mise en place d'une plateforme de déclaration en ligne. L'estimation de cette taxe de séjour pour 2019 est de 110 000 euros. Soit, si l'on additionne toutes ces recettes fiscales, on attend un montant de 30,47 millions d'euros. Elles sont en baisse par rapport à 2018 du fait du transfert des compétences tourisme et GEMAPI à l'agglo d'Épernay. Alors, en ce qui concerne les ressources humaines, donc conformément au décret du 24 juin 2016, qui est relatif au contenu du rapport d'orientation budgétaire, nous faisons figurer ici les éléments qui sont issus du dernier bilan social. Donc, il s'agit des effectifs au 31 décembre 2017, donc 553 agents étaient en position d'activité, tous statuts confondus. Donc, d'après le graphique, nous voyons que pour 67%, il s'agit de personnel titulaire, en bleu. 5%, il s'agit d'agents contractuels sur poste permanent, donc CDD ou CDI, ce qui représente 29 agents. Et 28%, il s'agit de personnel non permanent, c'est-à-dire des vacataires ou des saisonniers. Donc ce graphique nous montre la répartition par catégorie hiérarchique et au niveau des différents secteurs. On remarque ici que 93% des agents sont titulaires ou stagiaires. Entre 2015 et 2010, alors une grosse majorité, hein, vous le voyez, dans la filière administrative ou technique, hein, c'est ce qui représente un gros pourcentage de nos agents. Donc entre 2015 et 2017, donc entre les deux bilans qui ont été faits, 27 agents municipaux ont été transférés à l'agglomération dans le cadre des services mutualisés. Alors, il nous faut bien sûr prévoir les retraites pour adapter les effectifs et connaître un petit peu l'évolution de notre masse salariale. Donc, les prévisions des retraites sur les 10 ans à venir donnent ce graphique. Donc, ces prévisions sont bien sûr basées sur le départ à la retraite à l'âge légal dans le cadre actuel, avec le système tel qu'il existe à l'heure actuelle. Donc, une éventuelle réforme des retraites, bien sûr, pourrait impacter ces prévisions. Donc, en 2019, 11 agents, on le voit, vont atteindre l'âge légal de la retraite. À ce jour, seuls 4 agents ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc, pour les autres, à savoir que les agents doivent signaler leur souhait pour faire valoir leur droit à la retraite 6 mois avant. Donc, à ce jour, sur les 11 agents qui pourront faire valoir leur droit à la retraite, 4 les ont sollicités. Sur ces 4 agents, 3 seront remplacés. Alors, en ce qui concerne notre dette, est constituée de 33 contrats qui ont une durée moyenne de 5 ans. Donc, nous avons souscrit ces prêts auprès d'un certain nombre de partenaires. Hein, il y en a 9, tels que vous les voyez là, au niveau de la répartition sur le camembert en bas à droite, hein, donc notamment la Caisse des dépôts et consignations, nous avons la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Banque Postale, etc. Donc nos emprunts actuellement sont basés à 71% sur du taux fixe et du livret A et 29% sont des emprunts à taux variable, en majorité sur le Ribor 3 mois. Donc nous avons, c'est un graphique que nous vous présentons systématiquement, donc pour vous montrer que notre dette est une dette sécurisée, puisque nos emprunts sont classés à 95% en classe 1A, et puis 5%, 96 et 4% en fonction de l'arrondi, sont classés en 1B. Donc une dette sans risque. En ce qui concerne les charges de la dette, c'est-à-dire les intérêts des emprunts, Donc nous voyons que cette charge de la dette depuis 2010 est en diminution constante. Donc depuis 2010, c'est une diminution de 48% de la charge de la dette. En 2019, le volume des charges financières est estimé au même niveau que le réalisé 2016, soit 590 000 euros. Donc le taux moyen global de notre dette sur 2018 est de 1,63%, pour votre info. Alors, ce graphique nous présente l'extinction de la dette pour la ville et les annexes, puisque vous avez, donc en vert foncé, il s'agit de la dette de la ville, et en vert plus clair, il s'agit de la dette sur le budget parking. Donc, à ce jour, notre encours de dette est de 30 millions d'euros, auxquels nous devons ajouter 6 millions qui sont en report, c'est-à-dire qui n'ont pas été encore contractualisés. En 2019, il est envisagé d'augmenter notre encours de 3 millions d'euros afin de prendre en compte le projet, notamment le projet du musée. Donc fin 2019, notre encours se rapproche de 39 millions d'euros. Les 30 millions plus les 6 millions à contractualiser plus les 3 millions nouveaux. Donc concernant les objectifs budgétaires, donc, premier point, regardons nos recettes réelles de fonctionnement. Donc plusieurs hypothèses que nous avons déjà entendues qui ont été évoquées. Donc pas d'augmentation des taux de fiscalité en 2019, mais revalorisation des bases de 2,2%. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une diminution des attributions de compensation à hauteur de la subvention de fonctionnement de l'Office du tourisme suite au transfert à la GLO. La baisse de notre dotation globale de fonctionnement. La diminution des recettes également liée à la fin du dispositif des nouvelles activités périscolaires. Donc si l'on regarde toutes ces recettes qui soit restent stables ou diminuent, nos recettes réelles de fonctionnement devraient tout de même augmenter de 0,7% par rapport au budget primitif de 2018. Donc il s'agit là, comme vous le voyez sur le graphique, des recettes hors mécénat. Nous n'avons pas intégré le montant des subventions de mécénat. Donc, une fois que l'on connaît nos recettes pour établir le budget, on peut ensuite évoquer nos dépenses. Donc, nos recettes sont estimées. Notre objectif, c'est de maintenir un autofinancement identique au budget primitif 2018, là encore hors mécénat. Outre le fait qu'il traduit notre effort en matière de fonctionnement, c'est un indicateur important qui entre dans le calcul de désendettement de notre collectivité. Ce nouveau ratio s'impose désormais aux communes de plus de 10 000 habitants. C'est une obligation que nous devons vous présenter. Il nous faut alors agir sur le montant de nos dépenses réelles de fonctionnement. La hausse des dépenses réelles sera alors limitée à 0,9%, et ce, dans l'objectif de maintien des taux à l'identique par rapport à 2018. Notre capacité de désendettement, donc déjà couramment utilisée par notre collectivité, ce nouveau ratio obligatoire est déterminant dans notre analyse financière puisqu'il mesure la capacité de la ville à rembourser sa dette. Il est exprimé en années. Là, on voit que la capacité de désendettement de la ville d'Épernay est de 7,8 années. La progression de notre capacité de désendettement sera liée à l'augmentation de notre encours, bien sûr, notre encours de dette, car notre autofinancement restera identique. C'est un choix qui est fait. Donc, notre autofinancement restera identique. C'est ce qui est indiqué par la courbe jaune qui se trouve dans le bas du graphique. Les dépenses d'équipement de la ville et de ses annexes. Donc, on voit l'augmentation entre 2018 et puis les prévisions 2019. Donc, le volume 2019 des investissements devrait s'établir à 17,6 millions d'euros. Cette augmentation est à relier, bien sûr, à l'accroissement de notre encours de dette de 3 millions d'euros, qui sera lié directement aux investissements, notamment du musée, auquel il faut bien sûr mettre en parallèle ce qui n'a pas été comptabilisé, mais des subventions des subventions de mécénat. J'en ai terminé.
Merci Christine. Y a-t-il des questions? Qui commence? Marc.
Oui, je vais reprendre donc suivant votre plan, c'est-à-dire déjà parler de la conjoncture économique. Dans votre document, vous faites allusion aux tensions sociales actuelles sans en tirer les éventuelles conséquences. La suppression de la taxe d'habitation en 2019 pour 80% des Français doit diminuer par tiers sur 3 ans. Combien de foyers sparnassiens seraient concernés? Est-ce que vous avez déjà fait des calculs? Concernant le second point sur la loi de finances, la revalorisation des bases d'imposition est estimée à 2,2%, comme nous venons de le voir. Les impôts locaux vont donc augmenter à Épernay. Les Sparnassiens, une nouvelle fois, subiront cette augmentation. Vous allez encore dire que vous n'y êtes pour rien, que c'est la faute du gouvernement et du législateur. En fait, pour vous, rien de plus simple, vous pouvez diminuer les taux et stabiliser, voire diminuer l'imposition locale et lutter contre le ras-le-bol fiscal évoqué un peu partout actuellement. En ce qui concerne les recettes en hausse de 0,7%, malgré l'écrêtement de la DGF, la ville va augmenter ses recettes. Le FPIC est gelé, la DSU augmente de 40 000 euros, 110 000 euros depuis 2 ans. La hausse des impôts locaux va augmenter les recettes de 400 000 euros, 500 000 euros en 2 ans. La fiscalité locale va aussi bénéficier de la revalorisation des droits de mutation, la revalorisation de la taxe sur l'électricité, l'augmentation de la taxe de séjour. Des recettes en augmentation non négligeables. En ce qui concerne le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, elles devraient être moindres, dues au transfert de l'Office de tourisme à l'Aglo, on l'a vu, 425 000 euros, de la suppression de postes de personnel, plusieurs départs non remplacés, réorganisation des rythmes scolaires, on a vu qu'il y avait un gain de 270 000 euros. Donc, je vous rappelle que, naturellement, nous avons eu un certain nombre de postes, je crois 27, qui ont été transférés à l'Aglo. En principe, les dépenses de fonctionnement devraient diminuer, mais vous allez les augmenter. Tel est votre choix. Concernant les dépenses d'investissement, je rappelle que je soutiens depuis toujours la réhabilitation du musée, mais à ce propos, je réitère une demande de l'opposition pour qu'il y ait plus de clarté, de transparence dans ce dossier, que soient clarifiées les erreurs d'évaluation à la base entraînant des avenants et des surcoûts considérables. Vous aviez promis de nous mettre au courant. Nous sommes dans l'attente. Une parenthèse concernant le fonctionnement de l'équipe municipale. Avant chaque année électorale, il y a naturellement la réalisation du principal investissement. Cela est de bonne guerre. Donc en 2019, c'est le musée. En 2013, c'était la MAVA. En 2007, l'avenue de Champagne. En 2000, etc. On pourrait remonter loin avec la place Suplon et puis d'autres choses. Concernant la dette, l'encours de la dette va augmenter de 3 millions d'euros par rapport à 2018 et se monter à 38 millions d'euros. L'encours est en nette augmentation depuis 2 ans, alors que votre engagement était de le stabiliser à 30 millions. Donc le désendettement promis il y a quelques années a été plusieurs fois réaménagé. À quoi sert le graphique de l'extinction de la dette jusqu'en 2036 que nous avons vu, alors que d'autres emprunts seront contractés? Conclusion de cela. Premier point, dans le budget 2019, vous avez la possibilité d'augmenter les recettes et de dépenser moins en fonctionnement. Ainsi, vous pourriez dégager des sommes pour le financement du musée et avoir moins recours à l'emprunt. Par ailleurs, les montants élevés d'une part des subventions et d'autre part du mécénat, dont je me réjouis, doivent aussi alléger vos prévisions de financement et d'emprunt pour le musée. Deuxième point, vous poursuivez votre projet d'externalisation, c'est-à-dire de privatisation du service public. Troisième point, tout est fait, et c'est fort bien pour l'attractivité touristique de la ville, mais vous ne tenez pas assez compte de l'aspect social et démographique, voire économique. Mais sur ce dernier thème, c'est au président de l'Aglo que je dois m'adresser. Vous n'apportez pas de solution aux problèmes cruciaux, bien souvent mis en avant par l'opposition, et maintenant, sous une autre forme, par les gilets jaunes, la forte imposition des Sparnassiens, les problèmes liés à la pauvreté et le nombre élevé de pauvres à Épernay, un taux de chômage élevé à Épernay intramuros, le problème du logement cher à Épernay et les nombreux logements vacants, la chute démographique, le vieillissement de la population, etc. Pour tous ces problèmes sociaux, je ne vois pas de mesures concrètes ou d'orientation pour réduire la fracture sociale dans notre ville, afin qu'ainsi tout le monde puisse vivre décemment à Épernay. Je vous remercie de votre attention.
Merci. D'autres interventions ?
Oui, monsieur le maire, cher collègue. Je savais que Marc allait faire cette énumération très exhaustive des différentes lignes de ce rapport d'orientation budgétaire, donc ce n'était pas forcément utile du site plongé davantage. Moi, je souhaiterais rester sur la dimension débat, puisque viendra le temps du vote lors du budget primitif. Donc débat, ça veut dire que chacun peut avoir ses idées, ses convictions, les présenter. Pourquoi nous sommes tous ici élus avec la conviction certainement de pouvoir changer un petit peu les choses dans la société, c'est tout du moins mon cas. On espère au travers de nos modestes mandats pouvoir infléchir et faire en sorte que la vie de nos concitoyens et leur avenir soit un peu meilleur, même si il faut relativiser notre rôle dans ce conseil municipal. Vous avez évoqué la politique nationale, notamment avec les sujets qui seront évoqués au grand débat national. On sent effectivement une certaine déstabilisation du gouvernement qui, je ne sais pas s'il avait réellement une ligne de conduite ou une dimension politique au moment de son élection, mais aujourd'hui me semble bien perdu par rapport à la réaction de nos concitoyens. Pourquoi nos concitoyens réagissent ainsi ? Parce qu'aujourd'hui, on prend, à mon avis, la mondialisation de plein fouet et que les classes sociales dont vous évoquiez il y a quelque temps l'aberration de défendre les plus faibles pour ce qui relève de notre cas, retrouve ce débat de lutte sociale et de classe sociale, retrouve à mon avis toute sa dimension avec ce mouvement social des Gilets jaunes et cette crise autour de la mondialisation et le fait que désormais il n'y a plus que des gens qui sont en dehors de la société, mais il y a également tout un tas de gens qui sont des travailleurs et qui aujourd'hui sont des travailleurs pauvres et qui ont bien du mal à s'en sortir. Donc si on prend en compte notre rôle d'élu municipal, c'est au moins de faire en sorte que dans notre collectivité, on puisse contrecarrer des politiques qui sont néfastes pour les populations, qu'elles soient menées ailleurs, au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Donc essayer de, lorsque ces politiques sont mauvaises, essayer de les contrecarrer et d'apporter un petit peu de solidarité au travers des politiques locales. Est-ce qu'au travers des éléments de débat d'orientation budgétaire, même si on n'en est pas encore au stade budget, est-ce qu'on a pu voir, au travers de votre présentation, des éléments qui nous permettrait de croire à une inflexion de vos politiques, de votre politique, celle que vous menez ici depuis 20 ans? Moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, dans une ville comme épernée avec une érosion du nombre d'habitants, de plusieurs milliers d'habitants depuis 20 ans, 30 ans, mais surtout depuis 1000 habitants depuis 5-6 ans, depuis pratiquement le début du mandat. Donc cette érosion fiscale, cette érosion démographique est bien, je dirais, à corréler aux politiques qui peuvent être menées ici. Vous vous réjouissez habituellement de niveaux d'emploi satisfaisants sur notre bassin de vie, certes autour de l'onotourisme, mais comme nous l'avions fait remarquer avec nos collègues à maintes reprises, c'est quand même des emplois précaires, c'est quand même des emplois qui bien souvent appellent les gens à venir travailler le dimanche. Hein. Régulièrement, nous avons des délibérations en ce sens, que ce soit ici ou à la communauté d'agglomération. Et nous sommes quand même dubitatifs devant, effectivement, cette politique qui est quand même maintenue sans que, pour autant, on ait eu d'effet escompté en termes d'aversion, de dynamisme au niveau local. Donc aujourd'hui, on sent une continuité, une régularité, une linéarité dans ces orientations, dans ces choix politiques au travers de vos propositions. Et donc ça nous rend quelque peu inquiets. Donc l'externalisation pour contribuer à la diminution des charges de fonctionnement, des dépenses de fonctionnement, Marc Lefebvre l'a évoqué, je n'y reviendrai pas, parce que derrière, c'est quand même quelle dimension également, quelle dimension de service on doit accorder et on peut accorder dans une collectivité telle que la nôtre. Là, moi, je crois que ce débat d'orientation budgétaire, je dirais, entrecroisé avec les éléments de grand débat national qui sont en place en ce moment, doivent nous interpeller, nous, chacun de nous, élus, pour savoir ce que nous faisons ici et pourquoi nous le faisons et pour quel service auprès de nos concitoyens nous le portons. Donc on regardera attentivement les éléments qui seront portés au budget en essayant d'y trouver, je dirais, quelque assurance à ce niveau-là. Quelle dimension solidaire, quelle relation avec nos concitoyens et comment est-ce qu'on peut demain aider nos concitoyens à passer le cap dans une société qui sera beaucoup plus hostile, beaucoup plus violente, beaucoup plus dure. Je crois que notre objectif, ce n'est pas de construire pour telle ou telle clientèle. Notre objectif, c'est bien de construire pour l'ensemble de nos concitoyens.
Merci, merci. D'autres interventions ? Madame Perrin ?
Moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le déficit de l'État et de la sécurité sociale, à savoir que le déficit de la sécurité sociale n'est pas dû à une mauvaise gestion, mais plutôt aux cadeaux fiscaux qui sont faits aux employeurs, notamment à travers le CICE et autres mesures du même genre, qui font que ceux qui peuvent payer le plus ne payent plus ou presque plus. Il y a aussi des gens qui ne payent pas des impôts, hein, comme par exemple la société Google, qui ne paye aucun impôt en France alors qu'elle amasse des millions d'euros. Par rapport au personnel, sur 4 départs en retraite, il n'y en aura que 3 de remplacés, donc ça fait un quart de la masse salariale qui est évincée. Moi, je me pose la question aussi de...
Non.
Sur 3...
Un quart des départs, pas de la masse salariale.
Ouais, oui, la masse salariale des 4 que représentent ceux qui partent en retraite. Ça fait un quart des personnes, des départs en retraite qui ne vont pas être remplacés. Quiz du service public rendu à l'issue de ces suppressions de postes réguliers, hein, parce que à chaque fois on nous fait passer les emplois d'un côté, les suppressions de postes de l'autre, Mais quand on les met en parallèle au bout à bout, on s'aperçoit que d'année en année, le nombre d'agents est de moins en moins important. Autre chose, vous avez dit que les gens en avaient marre d'être taxés des impôts. Les gens, ils n'en ont pas marre des impôts, puisque les impôts, ça permet le service public. Ils en ont marre de payer des impôts de manière disproportionnée par rapport à d'autres qui n'en payent pas. Et ils en ont marre aussi de payer des impôts et de voir un service public en déliquescence et un service de proximité qui s'éloigne de plus en plus et qui remet en question une certaine qualité de vie. Voilà.
Monsieur Richard ? Pas de... J'ai cru de déceler une... On ne peut pas se passer de votre parole, monsieur.
Je vous remercie. C'est une année qui débute bien avec de tels propos. Voilà, on va les prendre. Juste quelques remarques par rapport au rapport qui nous est présenté, et notamment sur la situation économique, où je note ce qui est... par rapport au Fonds monétaire international, mais notamment les pays émergents, je ne vais pas lire l'ensemble, mais sur trois lignes, on parle des USA, de la guerre commerciale instaurée par les États-Unis, qui pénalise les pays émergents et l'économie mondiale, la politique de la Fed, de la Federal Bank, ont permis une amélioration des rendements des taux US et donc rapatriement des capitaux. En clair, personne ne le souligne. En tout cas, il y a une dépendance à l'égard de l'économie américaine et des options politiques, alors que ce soit du président actuel et de ses prédécesseurs, qui est quand même inquiétante. Et lorsqu'on voit, parce que ça, si c'est dans ce rapport, c'est bien sûr que ça influe sur nos économies ou sur notre économie. Bien sûr, ça influe sur les possibilités, de financières, etc. Au final, je ne suis pas économiste, mais et je n'ai pas la prétention de l'être en plus, mais c'est quand même préoccupant de voir que notre pays est à ce point, peut-être c'est disproportionné, non, je ne crois pas dans ma tête, mais d'être quand même assujetti à la politique américaine. Trump décide que l'Iran, c'est un mauvais pays. Et il faut cesser toute relation économique, commerciale avec ce pays. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? On emboîte le pas. Airbus se désengage, Citroën arrête, Total s'en va. C'est-à-dire que des entreprises qui ont quand même une base française... même si Total travaille essentiellement à l'international. Et ça me choque. Ça me choque qu'on soit à ce point et qu'il n'y ait pas de réaction forte du gouvernement, de M. Macron, enfin du président de la République et de son gouvernement. Moi, c'était la première observation. Concernant la remarque faite par... Hélène, à savoir les emplois, effectivement, si on calcule, si on fait un petit rapport, il y en a 25% qui vont disparaître. Grosso modo, c'est à peu près la ligne de la politique dictée par le président de la République qui dit qu'il faut supprimer 120 000 ou 125 000 emplois dans la fonction publique. En fait, votre politique, elle se connecte bien sur celle-ci. Voilà. J'aurais d'autres observations à faire, mais c'est un peu plus loin, notamment dans ce qui est concerne la mutualisation.
Merci. Bon, je vais répondre dans l'ordre inverse des interventions des uns et des autres. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de l'Iran et de la politique iranienne américaine à l'égard de l'Iran, mais enfin bon. Non, mais très objectivement, c'est lié au fait, monsieur Richard, qu'on est aujourd'hui dans une économie ouverte. Et mondialisé. Et il n'y a pas d'autre solution et pas d'autre choix. Les autres choix, les choix d'économie fermée, correspondent à des régimes que vous avez soutenus en d'autres temps et qui ont tous échoué et ont tous disparu. Je ne vais pas vous renvoyer vers la Corée du Nord, qui est une économie fermée. Vous voyez ce que ça donne pour le bonheur des gens. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est dans une économie ouverte. Et dans une économie ouverte, les pays qui peuvent avoir des politiques différentes les unes des autres, je ne dis pas que tous les pays ont la même politique, sont contraints de prendre en considération un certain nombre d'évolutions internationales et de veiller à la compétitivité de leur économie. Et ce qui caractérise très objectivement notre pays par rapport à tous les autres pays occidentaux, c'est le poids des dépenses publiques qui explique aussi le niveau des prélèvements obligatoires. Donc aujourd'hui, Madame Perrin a évoqué d'un mot le sujet, il y a effectivement un ras-le-bol fiscal. Et l'une des difficultés qu'on a à cerner ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on retrouve parmi les Gilets jaunes, et selon les gens que vous rencontrez ou que vous interviewez, vous trouvez des gens qui disent avant tout priorité ras-le-bol aux impôts, il faut baisser les impôts, il faut nous laisser gagner notre argent, on en a marre de payer, y compris pour les pauvres, on l'a entendu. Hein, on a donc moins de solidarité nationale et plus de profit personnel. Et c'est le cas de petits travailleurs indépendants, d'artisans, de commerçants auxquels il faut rester attentif. Et on a en même temps des gens qui réclament plus de solidarité, plus de fraternité, plus de dépenses sociales. Et l'une des difficultés, vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Angers, je crois, en disant que le gouvernement était déstabilisé par ce mouvement, ça tient au fait aussi que, un, il n'y a pas de représentant à ce mouvement, ou dès qu'il y en a un, il se fait éjecter par les autres, et ça s'est encore produit à Épernay il y a peu de temps, puisque la représentante locale qui avait été désignée vers le 20 décembre, elle a démissionné depuis, et que ce mouvement n'a pas de tête au sens où il n'y a pas un leader qui peut incarner avec un projet, des idées partagées par tout le monde. Il y a en fait un bouillonnement d'idées dont bon nombre d'entre elles sont contradictoires avec celles du voisin. Et la difficulté, c'est qu'on ressent à travers ce mouvement un mécontentement, une colère, mais qu'on a du mal à, sur lesquels on a du mal à mettre des revendications précises, parce que si vous interrogez 10 gilets jaunes, il y a de fortes chances pour que dans ces 10 gilets jaunes, vous ayez pas une majorité qui pense la même chose d'un même sujet. Et ça rend les choses difficiles, d'où la nécessité, à mon sens, de clarifier les choses à travers ce débat. Madame Perrin, vous évoquez le fait que le déficit de la sécurité sociale est lié au CICE, est lié au fait que Google ne paye pas. C'est sans doute en partie vrai, mais le déficit de la sécurité sociale, il existait bien avant le CICE et il existait bien avant les GAFA. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas taxer les GAFA. Moi, je suis pour la taxe. Non. Là, c'est une vision très partisane des choses. Il est lié en partie au chômage et à l'absence de rentrée financière. Mais on peut pas dire que c'est ni le CICE ni les taxes GAFA, puisque sinon, ça voudrait dire qu'avant le CICE, nos comptes sociaux étaient équilibrés. Ils ne l'étaient pas, vous le savez, comme moi. Sur la question du personnel, vous évoquez la suppression de 25% de la masse salariale des départs en retraite. Je reprends votre expression. N'oublions pas que si effectivement on fait des économies sur un certain nombre d'emplois, c'est pour financer d'autres emplois. Et rien que dans l'année 2019, on va recruter plus de 10 personnes au musée. Il faut bien créer ces emplois pour faire tourner le musée. Mais si on ne fait pas des efforts de gestion d'un côté, c'est directement les impôts qui augmentent. Alors il faut savoir ce qu'on veut. On ne veut pas augmenter les impôts et vous ne souhaitez pas qu'on augmente les impôts. Marc Lefebvre dénonce même une augmentation des impôts que lui seul voit, puisque ce qui explique l'augmentation des impôts, c'est l'augmentation des taux d'imposition. Le reste n'est qu'une actualisation des bases et de tout temps, selon toute majorité, gauche, droite, tout ce qu'on veut, Macron y compris, le rôle de l'Assemblée, c'est d'actualiser les bases en fonction de l'inflation chaque année. Mais le taux de fiscalité n'augmente pas. En revanche, je puis vous dire que si on ne faisait pas des économies sur un certain nombre d'emplois pour pouvoir en créer d'autres, il y aurait une création nette d'emplois qui, elle, pèserait lourdement sur les impôts locaux. Et donc, on est contraint, pour éviter d'augmenter les impôts, de faire des arbitrages, c'est-à-dire que quand certaines personnes partent en retraite, par des réorganisations, on essaie de ne pas remplacer ces emplois pour pouvoir financer la création d'autres emplois à côté. Et si on veut que le futur musée fonctionne, il faudra bien qu'il ait des emplois. Donc on va créer des postes cette année qui seront financés par les économies de fonctionnement qu'on fait par ailleurs. Vous évoquez également un service public en déliquescence à Épernay. Je vous mets au défi de trouver un service public en déliquescence, en tout cas un service public qui dépend de la ville, puisque nos engagements sont honorés partout, nos services fonctionnent partout, on n'a nulle part fermé nos services, ou quand on a été, par exemple, amené à fermer la restauration scolaire, on l'a remplacé par un service qui est aujourd'hui, qui donne entièrement satisfaction aux parents, aux enfants, aux enseignants. Donc je ne peux pas laisser dire que par notre gestion, le service public serait en déliquescence à Épernay. Pareil, Monsieur Angers, vous semblez évoquer le fait qu'on ignore la crise sociale à Épernay. J'ai essayé, pendant que vous parliez, de noter un certain nombre d'éléments qui démontrent que le contraire. Vous parlez notamment le fait qu'on ne réfléchit pas sur le niveau de service qu'on apporte à la population à Épernay. On est en train de construire une nouvelle résidence pour nos seniors. C'est pas rien. C'est une résidence qui sera ultra moderne et qui va accroître les services aux seniors. On a des aides pour financer le permis de conduire des jeunes. On a des aides pour financer le BAFA des jeunes gratuitement. On accueille des jeunes entreprises dans une pépinière d'entreprises aujourd'hui. On fait du soutien scolaire depuis des années. Là où bon nombre de collectivités n'en font plus, nous, on continue d'en faire au niveau du collège, au niveau même maintenant en remplacement du dispositif des 5 jours par semaine, on est revenu sur un dispositif original de soutien scolaire. On aide également à la mobilité quand on met en place de l'autopartage, quand cet autopartage profite à plus de 170 abonnés aujourd'hui, quand on a l'autopartage avec un véhicule pour 2 euros de la demi-heure. Je vous mets au défi de trouver une offre privée équivalente. Donc si ça n'est pas du service qui se développe, si ça n'est pas une attention portée aux plus modestes d'entre nous, puisque, alors, l'autopartage, j'en conviens, il n'est pas destiné qu'aux plus modestes. Il se trouve que j'ai rencontré un certain nombre d'utilisateurs de cet autopartage qui m'ont dit qu'ils étaient très contents du service parce que, un, ça leur faisait économiser une voiture, les charges de voiture, une assurance de voiture, et que maintenant ils prennent une voiture quand ils en ont besoin. C'est donc un vrai service pour eux et un vrai gain de pouvoir d'achat pour eux par rapport au fait qu'en des temps normaux, en des temps, ils seraient tenus d'avoir un véhicule, donc une assurance, donc des charges de fonctionnement de cette voiture. Donc la finalité, elle est aussi de promouvoir la mobilité propre, et tant mieux si on y arrive de la sorte, et probablement d'ailleurs que ce genre d'exemple pourrait inspirer nos dirigeants qui n'ont pas vu venir la crise provoquée notamment par l'augmentation excessive des prix de l'essence, ou en tout cas, si cette crise est venue par l'augmentation des prix de l'essence, elle est venue surtout, à mon sens, par le fait que, du jour au lendemain, les Français qui étaient élevés au diesel depuis des années, parce que l'État encourageait le diesel pas cher, du jour au lendemain se sont trouvés culpabilisés. On leur a dit, du jour au lendemain, vous êtes de mauvais citoyens parce que vous roulez au diesel. Sauf que quand on a peu de moyens et qu'on achète une voiture diesel, on l'achète pour 10 ou 12 ans. Et que du jour au lendemain, on a dit aux gens, maintenant vous êtes des coupables, vous roulez au diesel, d'une part. Et quand ils ont voulu se retourner vers l'offre électrique, et j'ai rencontré un certain nombre de Sparnassiens récemment qui se sont tournés vers l'offre électrique, on constate que l'offre électrique n'est pas là. Ou en tout cas, elle est encore très chère. Le jour où l'électrique coûtera le prix du diesel, d'un véhicule diesel, mais tout le monde passera à l'électrique, il n'y aura pas de difficulté. Le problème aujourd'hui, c'est que quand vous faites vos calculs, quand vous allez acheter même une Zoé, regardez la différence entre un véhicule diesel d'occasion et une Zoé, même d'occasion. Donc le problème, c'est qu'on a peut-être voulu aller trop vite, alors que la direction qui consiste à pénaliser les énergies fossiles est une bonne direction, mais qu'il aurait sans doute fallu ou booster des solutions alternatives plus tôt, ou faire en sorte qu'il y ait des aides qui permettent aux personnes qui ont les véhicules les plus polluants de basculer vers des véhicules propres. Alors ça s'est fait un peu sur le tard, mais c'est probablement aussi l'une des raisons qui a déclenché cette colère. Sur la situation de l'emploi à Épernay, moi je ressors les chiffres qui ont été publiés par la presse nationale il y a très peu de temps, dans le JDD il y a un mois, 6,3% de chômage sur le bassin d'Épernay. C'est le bassin le plus tendu, d'après le JDD, de l'Est de la France.
On a lu l'article, bon. Il n'y a aucune explication.
Mais non, mais on a obtenu des explications, c'est sur la base des statistiques qui sont... Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Bon, je sais bien que quand un chiffre dérange, on accuse tout de suite la presse. Les journalistes présents peuvent faire leur enquête, nous l'avons fait de notre côté. J'ai moi-même été surpris, en ouvrant le JDD un dimanche matin, de découvrir cette carte. Il n'empêche que c'est corroboré par le fait que tous les chefs d'entreprise que je rencontre, sans exception, la première demande qu'ils font, c'est « aidez-nous à recruter ». On n'arrive pas à trouver des personnes sur ce bassin d'emploi pour travailler. Il y a des gens qui ne veulent pas venir, et tous les bassins de l'est de la France subissent, à l'exception de l'Alsace, subissent une situation compliquée en la matière. Il y a des problèmes de qualification, c'est-à-dire une inadéquation entre le niveau de formation de la main-d'œuvre disponible et les attentes des entreprises. Il y a même des entreprises qui nous disent aujourd'hui, mais attendez, envoyez-moi des candidatures, j'ai pas besoin de formation, on les formera nous-mêmes. Parce qu'on est capable, pendant 3 mois, pendant 6 mois, de former nos futurs collaborateurs. Alors, ça fonctionne plus ou moins bien. J'étais encore ce matin avec un chef d'entreprise du sud-ouest marnais qui expliquait que ça commençait à fonctionner chez lui parce qu'il avait réussi à nouer une relation avec Pôle emploi qui lui donnait aujourd'hui satisfaction après bien des difficultés. Mais je puis vous assurer que c'est une préoccupation constante aujourd'hui et on doit se réjouir de cette situation, même si on ne doit pas oublier ceux qui sont dans les... dans ceux qui n'ont pas de travail, dans ceux qui souffrent fortement. Et je souhaite personnellement qu'on puisse organiser très prochainement une table ronde à l'échelle du bassin d'emploi avec l'État, avec la région, avec l'ensemble des organismes de formation, avec l'ensemble des entreprises concernées, pour qu'on essaie de trouver des solutions et qu'on essaie de ramener vers l'emploi un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, parce qu'elles sont au chômage depuis trop longtemps, ne peuvent pas répondre aux attentes des entreprises. Ça, ce sera vraiment une des priorités de l'année 2019. Et puis alors, vous nous ressortez toujours, Monsieur Anger, cette comparaison. Pour vous, un emploi touristique égale un emploi précaire. Vous semblez ignorer que le tourisme est aujourd'hui un secteur économique à part entière en France. C'est un secteur majeur. On est le premier pays touristique du monde. Et il n'y a pas que des emplois précaires dans le tourisme. Il y a des emplois. Quand le Royal Champagne recrute 110 personnes, il recrute 110 personnes à l'année, payées aux 35 heures. Où est-ce que vous voyez de la précarité là-dedans? Je ne sais pas si vous avez regardé le niveau des salaires qui sont offerts dans cet hôtel-restaurant. Il ne s'agit pas d'y aller. Il s'agit simplement de constater que 110 emplois ont été créés. Ces emplois n'ont rien de précaire. Ce sont des CDI. Ce sont des emplois plutôt bien payés. Et d'ailleurs, ils cherchent encore des collaborateurs aujourd'hui. Et si vous faites le tour des principaux établissements de restauration ou d'hôtels, tous cherchent des collaborateurs. Alors, mais arrêtons une fois de plus de dire que tourisme égale précarité, c'est complètement faux. Et on pourrait... D'ailleurs, le tourisme est le secteur qui a créé le plus d'emplois dans notre territoire depuis 3 ou 4 ans. Il en créera encore, mais ce sont de vrais emplois, des emplois comme les autres, et on ne peut pas, comme vous le faites trop souvent, peut-être un peu maladroitement, considérer que ce sont des sous-salariés. Les salariés qui travaillent dans le secteur du tourisme sont des salariés à part entière. Ce sont des personnes qui méritent le même respect que des personnes qui occupent des emplois industriels. On sait très bien, et ce n'est pas propre à Épernay, que le secteur secondaire, le secteur industriel, a globalement régressé depuis 15 ans au bénéfice du secteur tertiaire. Il en a été de même avec le secteur primaire avant. Pour autant, on ne peut pas considérer ou continuer à raisonner en disant « autrefois, c'était bien, c'était des emplois industriels, maintenant, c'est des emplois touristiques ». Moi, je suis toujours très choqué de cette comparaison. Et le fait que nous ayons été retenus comme territoire d'industrie par l'actuel gouvernement nous permettra, là aussi, d'essayer de redonner peut-être plus d'éclat, plus d'appétence pour les emplois industriels, parce que Épernay reste une ville fortement industrielle. J'en suis personnellement très heureux. Et nous avons en la matière un certain nombre d'entreprises de qualité qui continuent d'embaucher, qui continuent de se développer à Épernay, qui font tout pour se développer à Épernay. Et je pense que c'est plutôt des messages positifs qu'il faut leur adresser plutôt que constamment des reproches. S'agissant de l'intervention de Marc Lefebvre, bon, effectivement, la suppression de la taxe d'habitation, c'est quelque chose qui nous inquiète, non pas tant parce que cet impôt va disparaître. Cet impôt était quand même un impôt très injuste, tout le monde le sait, puisque les bases n'avaient pas été revues depuis 72, et qu'aujourd'hui, vous aviez des gens qui vivent aujourd'hui dans des appartements très peu confortables, qui payaient parfois plus d'impôts que des gens qui vivaient dans des hôtels particuliers, tout simplement parce qu'entre-temps, il y avait une rénovation de certains bâtiments. Donc, étant donné que les différents pouvoirs qui se sont succédés n'ont jamais... remis sur la table la question de la révision des bases locatives. Il faut que cette fiscalité évolue. Le président de la République, candidat Macron plus exactement, avait proposé sa suppression. Je pense que c'était politiquement bien joué, parce que évidemment, ça fait plaisir à personne de payer cette taxe d'habitation. Pour autant, on n'a toujours pas de réponse sur le remplacement de cet impôt. Je rappelle qu'il y a deux hypothèses. C'est où la taxe d'habitation est remplacée par la part départementale du foncier bâti, ou on assiste à un dégrèvement fiscal, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye la taxe d'habitation à la place des contribuables, ce qui est la solution que privilégie l'Association des maires de France. Pour autant, on attend toujours que cette question soit tranchée. Elle ne dépend pas de nous, mais moi, je souhaiterais qu'elle soit prise le plus rapidement possible, parce que ça donnera là aussi un certain nombre d'indications, non seulement pour l'année à venir, mais pour les années à venir, et ça nous permettra de savoir comment évolueront nos recettes au cours des prochaines années. Alors, je reviens sur le sujet, je l'ai évoqué. Les taux de taxes locales n'augmentent pas depuis 14 ans. Ils ont même baissé deux fois, je l'ai dit tout à l'heure. S'agissant du musée, vous aurez l'ensemble des explications concernant l'évolution des coûts du musée lors du débat budgétaire et probablement avant, puisque j'aurai eu tous les éléments d'ici là. Je note quand même que vous avez déjà fait des déclarations fracassantes à la presse avant même d'entendre nos explications. Donc, je sais, c'est peut-être pas vous, mais peu importe. Mais j'apporterai les explications parce que, encore une fois, quand on, par exemple, on découvre que il y a du plomb dans l'air parce que le fait de refaire ce musée a soulevé une poussière de plomb qui était là depuis sans doute des décennies, voire peut-être plus d'un siècle. Bon, on a des surcoûts, 250 000 euros pour faire appel à une entreprise, pour stopper le chantier, pour extraire toute cette poussière à l'intérieur du musée. Ça fait partie des surcoûts qu'on peut rencontrer. Et puis, le programme que nous avons envisagé a lui-même évolué, mais on y reviendra lors de l'examen du budget primitif. Vous évoquez effectivement l'augmentation de l'encours de la dette. Je le revendique. C'est tout simplement parce que, et il suffit de regarder l'histogramme qui a été présenté tout à l'heure par Christine Mazzi, on a effectivement une augmentation sur les années 2018-2019 qui correspond exactement à la mise en œuvre de ce projet qui va coûter plus de 20 millions d'euros. Il est normal que quand on a à faire face à un projet comme celui-ci, l'encours de la dette augmente parce que ça n'est pas aux contribuables d'aujourd'hui à payer un équipement comme celui-ci. Par la dette, on étale dans le temps le règlement d'un investissement comme celui-ci. C'est un principe qu'on a toujours suivi. Et il n'est pas question pour autant de stabiliser notre dette à un niveau trop élevé. Dès que les travaux du musée seront terminés, vous verrez que la dette reviendra à un niveau plus normal, en tout cas correspondant aux engagements qu'on a toujours pris. Le graphique d'extinction de la dette, c'est une obligation, donc on vous le présente. C'est vrai que c'est quelque chose de complètement théorique. Puisque, en le lisant, on pourrait se dire, voilà, bien, dans quelques années, on aura plus, 0 euro de dette. Bon, sauf qu'effectivement, chaque année, on emprunte, puisque les investissements, et c'est la loi qui le prévoit, sont financés notamment par l'emprunt. Bon, il ne faut pas en abuser, évidemment, mais le fait d'avoir un autofinancement stable à 5 250 000 euros tous les ans, c'est un élément de stabilité. Ça démontre que on sait faire face à nos investissements sans être dépendant des banques, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, ben voilà, j'ai à peu près... oui, quand vous évoquez également la situation sociale qui se dégradait, j'observe que... j'ai évoqué le taux de chômage tout à l'heure. Le budget, l'aide au CCAS, le budget que la ville accorde au CCAS va être en augmentation, qu'on ne cesse d'être au plus près des attentes des citoyens, qu'on a fait en sorte d'investir pas plus tard que l'année dernière sur la manière dont sont accueillies les personnes les plus nécessiteuses, celles qui ont besoin d'une aide alimentaire, d'une aide vestimentaire, qu'on a un panel aujourd'hui d'associations très efficaces qui sont efficacement soutenues par la ville. C'est pas forcément quelque chose qu'on claironne tous les quatre matins parce que on est aussi soucieux de la dignité humaine et qu'on n'est pas là non plus pour se vanter de faire plus qu'ailleurs, mais je crois pouvoir dire en tout cas qu'on n'a pas à rougir de notre action en la matière. Je voudrais, pour le dernier point, puisque vous en parlez souvent, souligner que j'ai pas entendu le mot écologie dans votre bouche, notamment pas chez vous, monsieur Angers. Alors, jamais trop tard pour bien faire. Mais il y a aussi dans ce budget toute une série d'opérations. On va le verra également avec le budget d'Épernay Agglo-Champagne, où il sera beaucoup question d'investissement dans l'écologie, d'investissement dans un aménagement urbain durable, parce que c'est une tendance lourde. Je sais d'avance que vous allez considérer qu'on n'en fait jamais assez, mais en tout cas, cette direction, elle existe bien, elle figure bien dans nos engagements budgétaires chaque année, et l'année 2019 ne fera pas exception sur ce point. Madame Perrin et Monsieur Urger.
Moi, je souhaiterais revenir sur les emplois dus au tourisme, et vous avez pris en exemple l'hôtel-restaurant, le Royal Champagne. Si les emplois étaient si bien et si bien rémunérés, pourquoi est-ce qu'il y a un turnover à ce point et sur les plus hauts postes, puisque le directeur qui a ouvert l'établissement n'a pas fait 6 mois, quoi. Donc, enfin, je veux dire, voilà, on voit que...
Vous partez d'un cas particulier, vous en faites une généralité.
Ah ben, il n'est pas le seul à être parti. Bon. Hein.
Il est parti après un an. Il est arrivé exactement il y a un an. Il est reparti il y a un an, tout simplement parce que, bon, il me l'a dit, il a eu une opportunité dans un palace à Phuket, en Asie, qu'il a passé l'essentiel de sa carrière en Asie, que son épouse doit être étrangère et ses enfants... je l'ai vu rencontrer avec ses enfants, ont bénéficié d'un enseignement international qui peut-être leur manquait. Il parlait en anglais à ses enfants. Je pense que quelqu'un qui a toujours vécu dans les pays étrangers a peut-être du mal à revenir en France. En tout cas, moi, il m'a dit qu'il avait été extrêmement heureux de cette expérience en Champagne, très fier de cette expérience. Et il faut pas, c'est pas parce que le directeur a changé qu'il n'y a pas de directeur, mais surtout que ces investisseurs américains, qu'on doit saluer pour l'audace de leur investissement, ont quand même créé 110 emplois chez nous. Alors certes, ça vous plaît pas beaucoup parce que c'est des emplois dans le secteur du luxe et que vous auriez préféré une bonne vieille entreprise industrielle vous connaissant, mais...
Les deux.
Les deux.
Oui, non, mais d'accord. moi aussi pour les deux. Bah, voilà. Mais je veux dire par là qu'il faut pas non plus donner toujours le sentiment que le secteur touristique est un secteur au rabais, parce que dans les maisons de champagne, chez les vignerons, le développement de l'œnotourisme, enfin assumé. J'allais dire, ça me donne l'occasion de tirer un coup de chapeau à un élu que j'ai pas toujours soutenu, Laurent Fabius, qui a été le premier à parler de l'œnotourisme, d'un œnotourisme décomplexé en France, qui a fixé, quand le ministère du Tourisme est venu dans le giron des affaires étrangères, qui a souhaité faire de l'œnotourisme un axe prioritaire, et tous les gouvernements qui ont suivi se sont inscrits dans ces pas. Avant, on avait le droit à un œnotourisme complexé, où il fallait pas en parler, où il fallait même pas parler qu'on produisait du vin en France, pardon pour le prisme local, mais j'estime en ce qui nous concerne que c'est un atout premier pour notre territoire. Tout le monde nous l'envie dans le monde entier, il faut le revendiquer, il faut créer des emplois, créer des activités, développer l'offre touristique, c'est ce qu'on fait à notre niveau. Se féliciter de l'offre touristique qui est portée par des acteurs privés, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui qui multiplient les projets, on en aura encore très certainement dans le courant de l'année. C'est une vraie dynamique qui existe depuis plusieurs années, et c'est une dynamique qui, me semble-t-il, devrait tous nous réjouir. Monsieur Angers.
Quand je parlais du tour inverse, ce n'était pas que du directeur. Hein. C'était l'exemple du haut de l'échelle, mais d'autres personnels ont déjà quitté l'entreprise pour aller ailleurs.
Mais c'est la règle partout, puisque aujourd'hui, dans un territoire où on manque d'emplois, dans un territoire où on manque de personnel, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises se piquent les personnels qualifiés. C'est inévitable. Donc c'est un peu le revers de la médaille, j'en conviens. Mais en même temps, on n'a pas de prise sur ce genre de choses. Et là aussi, c'est le fonctionnement de l'économie. Monsieur Angers, et ensuite je donnerai la parole à Claude Maréchal qui a demandé la parole.
Oui, quand je disais... rien ne change, on a la confirmation au travers de vos propos. Vous avez commencé votre propos de réponse en disant, de toute manière, on est dans une économie mondiale ouverte, et donc on est obligé de s'aligner là-dessus. Vous avez parlé de nos tourismes, parlons même de tourisme d'une manière générale. Effectivement, c'est une manne financière pour un certain nombre de territoires, le nôtre, où on a cette spécificité autour du vin, mais je crois que c'est aussi la recherche de tous les territoires au niveau de l'Europe, de pouvoir faire venir du monde, de pouvoir créer une certaine activité, parce que c'est aussi le pendant de territoires qui, bien souvent, se sont désindustrialisés par ailleurs, et ça apparaît aujourd'hui comme une voie de sortie. Pour autant, on évoquait la transition énergétique, la transition écologique. Dites-moi, qu'est-ce que l'on fait pour intégrer, je dirais, cette transhumance touristique dans notre façon d'être, dans notre comportement au quotidien, pour impacter, je dirais, les effets du réchauffement climatique. On ne fait rien. En matière de fiscalité, les Gilets jaunes l'ont dit il y a quelque temps par rapport aux taxes sur liées aux carburants pour le privé. Quand on voit que les compagnies aériennes sont complètement en dehors du jeu, et là, effectivement, c'est un atout pour le tourisme, mais je pense qu'en matière de transition écologique, c'est des sujets sur lesquels on a quand même fort à faire, nous aussi à l'échelle locale, pour essayer d'inverser la tendance. Je ne vois pas comment on peut s'y prendre. En matière de précarisation des emplois touristiques, c'est pas moi qui le dis. C'est quand même, il y a quelques années, on a passé, je ne sais plus le nom du label, ville touristique. L'un des objets de ce label était de permettre, par une adaptation de l'emploi, à permettre de positionner les emplois plus facilement le samedi, le dimanche, etc. On s'est quand même orienté vers une précarisation de l'emploi, peut-être pour correspondre à une certaine clientèle, mais c'est quand même une réalité. Voilà, moi, ce que j'ai à compléter par rapport à ce que vous avez dit, vous avez parlé d'un certain niveau de service. Certes, c'est très bien, les personnes âgées, moi, je crois qu'il faut effectivement les accompagner dans leur dernier temps de vie en faisant qu'elles soient plus agréables. Mais quand on regarde notre société, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, les gens ne vivent plus sur le territoire. Nos jeunes conforment parfois sur notre territoire. Ils vont partir ailleurs, ils vont aller vivre ailleurs. Bien souvent, aujourd'hui, c'est les générations de retraités qui suivent les enfants. Et sur le territoire, eh bien, les personnes âgées, elles restent seules, avec des enfants qui partent travailler ailleurs, un petit peu partout en France et dans le monde, et il n'y a plus d'unité familiale pour s'en occuper, pour les gérer. Je ne veux pas dire pour autant qu'il faut revenir à des sociétés archaïques, mais on a à repenser, et ça aussi, moi je lis ça avec la transition écologique, comment est-ce que sur un territoire, on peut réorganiser une société où chacun trouve sa place, les gens qui travaillent, qui ont une activité, puis un moment qui n'en ont plus, qui passent à la retraite, mais dans laquelle notre société trouve de la solidarité. Moi, je crois que cette solidarité-là, certes, il faut la faire, mais elle coûte beaucoup plus cher que de permettre aux gens de rester chez eux parce qu'ils sont encadrés par des voisins, par des gens de famille. Et je trouve que là, il manque quelque chose d'humain et de solidaire, de solidariste, puisqu'on est ici quand même dans une ville où Léon Bourgeois a apporté cette touche. Hein. Chacun vit le parcours de sa vie, il apporte, il crée, et je crois que cette dimension-là, moi, je ne la retrouve pas, de toute manière, dans la façon dont vous présentez les choses.
Alors, ce sont des évolutions qui nous interpelle autant que vous êtes interpellé hein, là-dessus, quand il s'agit de faire des constats, quand il s'agit de regarder comment les gens vivent aujourd'hui, comment il faudrait qu'ils vivent si on voulait être plus respectueux de l'environnement. Je vous rejoins sur bon nombre de sujets. Je trouve personnellement scandaleux que les navires qui partent en croisière ne payent pas les mêmes taxes que les automobilistes. Je suis aussi scandalisé par le fait que les avions bénéficient de régimes dérogatoires, mais ce sont des décisions, un, sur lesquelles nous n'avons pas de prise, vous et moi, mais sur lesquelles nos gouvernements n'ont pas de plus de prise, puisque ce sont des décisions qui se prennent au minimum à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale. Parce que vous imaginez, si la France était le seul pays à taxer le carburant des avions, bah, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait du jour au lendemain plus aucun avion qui atterrirait à Paris, ils atterriraient tous au Luxembourg, à Bruxelles, à Londres et tout autour. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre en considération des données comme ceci. Il est clair qu'il y a des efforts à faire de la part de tout le monde. Il est clair qu'on doit changer notre modèle de développement pour avoir un modèle de développement plus respectueux de la planète. Et je vous rejoins, et je pense pouvoir dire qu'on se rejoint sur un certain nombre de constats. Mais en même temps, on ne peut pas tout attendre des orientations budgétaires de la ville d'Épernay. Hein. Il faut rester modeste. On est là pour examiner un certain nombre d'orientations qui correspondent aux besoins de notre territoire. Ça ne nous empêche pas d'avoir des accords sur d'autres débats. Je vais passer la parole à Claude Maréchal, puis à Benoît Moitié.
Oui, plusieurs points sur lesquels je voulais revenir. Le premier point, c'est être convaincu quand même que Épernay a une dimension industrielle forte et doit être consolidée. Et ça veut dire quand même qu'il y a des besoins de compétences qu'il faut développer. Je pense qu'il y a des initiatives qui vont être prises. La deuxième chose que je voulais dire, c'est corriger quelques préjugés. On parlait du Royal Champagne. Eh bien, je puis vous affirmer que le Royal Champagne est un acteur important et qu'il a offert des possibilités d'immersion pour des jeunes qui veulent travailler sur la filière hôtellerie-restauration. Donc, il n'est pas hors sol. Et troisième point, il y a des préoccupations, effectivement, pour être attentif à des publics les plus en grande difficulté. Il y a un grand projet qui est en train de se préparer. Vous connaissez sur le PIC qui est le 100% inclusion. Et nous avons déjà des grands opérateurs à Épernay qui sont prêts à nous soutenir. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais c'est des enjeux importants. Donc on n'est pas à l'extérieur et ignorant des réalités social du terrain et en même temps, il y a des opérateurs qui sont quand même attentifs. C'est ce point que je voulais rajouter.
Benoît Mottier.
Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Deux points. Un qui complète ce qui a été avancé par Franck et Claude. Tout d'abord sur effectivement le classement station de tourisme avec cette faculté. De pouvoir recruter sous forme de contrat saisonnier. Le contrat saisonnier, ce n'est pas la réponse. C'est une réponse parmi un éventail de solutions juridiques. Je vais prendre juste un exemple. Et la preuve vous en a été donnée par le nombre des emplois en CDI qui ont pu être créés au Royal Champagne. Regardez-nous notre SEM pour le ballon captif. Nous avons eu recours à des CDI, à des CDD classiques, et à un CDD saisonnier. C'est un exemple, mais on pourrait en citer d'autres. Aujourd'hui, vous savez, le marché de l'emploi, dans certains secteurs, c'est autant l'employé, peut-être même des fois plus l'employé, qui fait le marché plutôt que l'employeur. Je parle de ce que je connais à mon petit niveau. Aujourd'hui, nous, on a énormément de difficultés à recruter des personnels diplômés dans le notariat. Si aujourd'hui, on leur proposait un CDD un CDD, je peux vous assurer qu'il ne viendrait même pas chez nous. Aujourd'hui, même un jeune qui sort de l'école, c'est soit un CDI, soit il part ailleurs. On a des secteurs tendus comme ça de l'emploi où il y a effectivement des besoins. Et du coup, c'est souvent l'employé qui choisit. Je ne dis pas que c'est le cas partout, mais il y a des secteurs où c'est le cas. En matière touristique, je ne vais pas dire que c'est pareil, mais si vous voulez, dans les cafés, les hôtels, les restaurants, si vous voulez recruter quelqu'un en CDI, ou vous lui proposez plutôt un CDD, il va choisir le CDI. Le CDD saisonnier, ça reste une possibilité, c'est une souplesse supplémentaire. Pourquoi ? Parce que nous avons des professionnels du tourisme qui aiment bien faire les saisons. Il y en a notamment dans les cafés, les hôtels et restaurants des Pernay. Ils aiment bien partir l'été ailleurs ou l'hiver ailleurs et inversement. Donc la possibilité finalement qui a été ouverte par le classement en station de tourisme, c'est justement pour ceux qui sont intéressés par ce type de contrat, de pouvoir en bénéficier. Et ça peut servir tant l'employeur que l'employé. Ça, c'est pour la partie contrat saisonnier, CDD saisonnier. Pour la question de l'activité économique au sens large, moi, je rejoins complètement Claude. C'est quand même très réducteur de ne parler que de développement touristique à Épernay. Quand on sait les efforts, même s'il y a encore beaucoup à faire, pour tout ce qui concerne la filière agro-industrielle. Il y a des réels, on a un réel savoir-faire ici. On a vraiment des entreprises qui sont leader sur le plan national ou international dans leur secteur d'activité. Et donc, il faut contribuer effectivement à améliorer l'environnement dans lequel elles évoluent. Alors, tout ne relève pas de la politique de la communauté d'agglo ou de la facilité foncière que peut offrir la commune d'Épernay. Il y a bien évidemment des décisions nationales, voire communautaires qui impactent aussi nos entreprises, mais il faut quand même, faut pas non plus réduire le développement ou la politique économique de la ville ou de l'agglo à simplement une volonté de faire d'Épernay et de son bassin de vie une terre touristique. C'est un des éléments d'une politique plus globale qui inclut bien évidemment les activités connexes aux champagnes et tout le secteur du champagne au sens principal du terme.
Pas d'autres deux dernières interventions. Allez-y.
Oui. Donc trois petits points. Le premier, le problème de l'emploi dans la restauration au niveau du bassin n'est pas nouveau. Il y a environ une quinzaine d'années, en tant qu'animateur du bassin de formation Épernay-Cézanne, j'avais contacté une vingtaine de restaurateurs et réfléchi à la mise en place d'un CAP par unité capitalisable. Tout le monde était d'accord, mais le rectorat m'a tapé sur les doigts que ce n'était pas à nous à créer un tel diplôme et à avoir des contacts directs avec le patronat. Le deuxième point concerne donc les taux. Je le répète, n'augmentent pas les taux d'imposition, mais je voudrais vous faire dire que vous le disiez vous-même, les taux n'augmentent pas, mais les impôts à Épernay augmenteront. Qu'on ne joue pas là-dessus. Et puis dernière chose, concernant le bassin d'emploi, on l'a déjà parlé des dizaines de fois, c'est vrai que sur le bassin d'emploi d'Épernay, il y a peu de chômage. Si on va à Avize, il y a peut-être 1 ou 2%. Vertu, il n'y en a pas du tout, presque pas. Montelon, tous ces villages. Mais sur Épernay intramuros, il y a au moins 13 ou 14%, voire plus, de chômeurs. Et vous le savez, relisez le contrat de ville, les rapports d'il y a quelques années. Dans certaines rues, c'est marqué qu'il y a 60% de chômeurs sur Bernan et qu'il y a environ 28% de chômeurs en tout sur le quartier. Donc, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est vous dans un rapport.
Et d'après vous, quelle est l'explication ?
Comment ?
Quelle est l'explication, d'après vous ?
Non, mais je donne pas l'explication.
C'est mécanique.
À Épernay, il y a au moins 14% de chômeurs.
C'est mécanique, mais 92% des logements sociaux du bassin, jusqu'à Dormans, se trouvent à Épernay. Donc c'est normal que la population en difficulté se trouve à Épernay. Mais c'est la raison pour laquelle, depuis des années et des années, Pôle emploi et avant la NPE a renoncé à calculer le taux de chômage par commune. Ça n'avait pas d'intérêt. On aurait eu zéro d'un côté, des milliers de l'autre. Enfin, simplement, c'est par bassin que ça se calcule. Et aujourd'hui, on est dans une ère où les gens ne vivent pas et ne travaillent pas dans la même ville. Souvent, ils travaillent dans la commune d'à côté ou des communes un peu plus loin ou de la communauté de communes d'à côté. Donc, la seule échelle pertinente, c'est l'échelle du bassin de vie. C'est d'ailleurs celle qui, aujourd'hui, est adoptée par Pôle emploi depuis des années et qui n'a pas à contester, puisque c'est la norme telle qu'elle est acceptée par tous aujourd'hui.
Cette vision de bassin ne devrait pas vous échapper, monsieur.
Comment ?
Cette vision de bassin ne devrait pas vous échapper, vous qui avez l'habitude de parcourir les routes départementales pour nous rejoindre à Épernay.
Oh, c'est il y a une quinzaine d'années, j'ai dit.
Monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste sur deux points très rapidement. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici, et je pense dans la tête de personne, de stigmatiser même le tourisme de luxe. Moi, ça ne me dérange nullement. Alors là-dessus, il faut être absolument tranquille. Mais plus globalement, il y a une réelle problématique dans le tourisme et dans les métiers liés au tourisme, en particulier dans l'hôtellerie, les cafés-restaurants, comme le disait à l'instant M. Moitier. Mais cette problématique fait qu'il y a un turnover beaucoup plus important. Alors c'est lié aussi à la spécificité du métier. Ceux qui veulent faire la saison à la montagne et puis l'autre saison à la plaine ou à la mer, d'accord, mais ça ne concerne pas la majorité des emplois. Et la problématique, elle est quand même qu'il y a, et c'est des constats qui sont faits, y compris au niveau des organismes, je dirais, gouvernementaux, il y a quand même une exploitation, voire une surexploitation dans certains endroits des personnels. Si ce ne sont pas des emplois précaires, ce sont des emplois partiels. On embauche pour 15, 20 heures dans la semaine ou autre. Il y a une réelle problématique qui fait qu'il y a un turnover beaucoup plus important que dans d'autres métiers. Ça, bon, alors donc, encore une fois, et c'est pour terminer sur cet aspect-là, on ne stigmatise et on ne veut stigmatiser personne. On a bien raison. Concernant la révision, et, il y a quelque chose qui me gêne dans votre propos, monsieur le maire, et au fait, c'est pas qui me gêne, je ne suis pas d'accord, lorsque vous dites sur la taxe sur le kérosène, sur le gasoil pour les paquebots de croisière, etc., on ne peut rien faire. Nos gouvernements ne peuvent rien faire.
On ne peut faire qu'à une certaine échelle qui est supra-gouvernementale.
Oui, mais en même temps, c'est quand même un petit peu inquiétant et désolant l'image que ça renvoie, notamment dans la population, vers la population, qui dit mais franchement, à quoi ? Alors on entend des, comme vous dites, on entend tout et son contraire, y compris chez les Gilets jaunes, que je soutiens moi, en ce qui concerne leurs revendications sociales, fiscales, etc. C'est clair, net. Là-dessus, je n'ai aucun problème. Les quelques débordements qu'il peut y avoir ne me dérangent pas. Les Gilets jaunes font leur police eux-mêmes et ils sont en train de faire un nettoyage. Donc, ouais, mais ça se fera. Ça se fera. Tout le monde pensait que ça allait s'éteindre après les fêtes, que la trêve des confiseurs aurait bien rempli les estomacs pour ceux qui le peuvent. Et on voit que c'est loin d'être le cas. Alors donc, ça, c'est inquiétant. Parce que ça veut dire, grosso modo, on élit des gens et puis qui n'auraient pas de pouvoir. Il y a eu une proposition des députés communistes il y a quelques jours qui vise à l'Assemblée nationale, qui vise à faire un prélèvement, à opérer un prélèvement à la source sur les multinationales telles Amazon, Google, Facebook ou je ne sais plus quoi, un prélèvement à la source comme il est fait pour nous. Ceux qui ont déjà eu leur bulletin de pension et autres ont vu que là-dessus, ça marchait bien. La retenue, il n'y a pas de souci. Eh bien, voilà. Et ça, un gouvernement peut le faire. C'est pas simplement, ça dépend pas. Alors, les discussions, comme on en a parlé il y a un mois au Conseil municipal, quand moi, je disais qu'il faut une réelle volonté politique dans les discussions à l'échelle européenne. Alors, bien évidemment, le ministre français en charge de ces questions-là renvoie sur les autres ministres. Et je suis sûr que dans les pays de la communauté européenne, on doit avoir à peu près le même discours. L'un renvoie l'autre. Et puis, comme ça, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Et on ne fait rien, quoi, grosso modo. Alors donc, je crois, moi, je milite, pas pour une sortie de l'euro, c'est pas mon propos, mais je milite pour ce qu'un gouvernement français ait aussi la volonté de prendre des décisions qui vont dans le bon sens. Je vous rejoins, c'est tout à fait normal que le kérosène et autres liquides servant aux croisières, par exemple, soient en dehors. Alors, révision des bases de la taxe d'habitation. Ici, il y a quelques années, il y a quelques décennies, il y avait eu une révision des bases de taxe d'habitation, notamment sur Bernon, initiée à l'époque par les communistes d'Épernay, relayée par le maire Jacques Perrin, et qui avait abouti à un résultat, puisqu'il y avait une correction, et y compris plusieurs dizaines d'habitants de Bernon avaient reçu du service des impôts des chèques concernant des trop perçus, entre guillemets, par rapport à cette classification. Et il était effectivement anormal que des hôtels particuliers de la Nuit de Champagne ne payent quasiment pas de taxes d'habitation par rapport à quelqu'un qui avait un F3 ou un F4 à Bernon. Mais donc, il y a une possibilité, y compris localement, d'agir sur, par la classification notamment, d'agir sur ces taxes. Mais je vous remercie.
Bien, je vous propose de clore ce débat. Il n'y a pas de vote, comme toujours, pour le débat de rédaction budgétaire, et on aura l'occasion de revenir sur ces sujets dans le cadre de l'examen du budget primitif. Nous passons, si vous voulez bien, au rapport suivant, le rapport 2.1, Jacques Fromme.
Chers collègues, la ville est en charge de l'exploitation courante du service dispensé aux ammoniataires du parking centre-ville.
Ceux-ci ont à supporter les charges d'utilisation afférentes aux emplacements de stationnement dont ils ont l'usage. Au regard de ce motif, il convient de réviser les appels de charges de fonctionnement mensuels. Je vous propose donc de fixer à compter du 1er janvier 2019 le montant de l'appel de provision à 28,99 euros TTC.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas d'opposition. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.2. Christine Mazzi.
En raison des différences qui résultent de l'exécution du budget 2018 de la Caisse des écoles, la subvention d'équilibre versée par la ville est ajustée en fonction des dépenses et des recettes qui sont réellement engagées. Aussi, je vous propose d'adopter le montant définitif de la subvention accordée à la Caisse des écoles pour l'année 2018 à 123 700 euros.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2.4, Pierre Marandon. Ah, pardon, j'ai dû oublier le 2.3. 2.3, oui, Christine Mazzi.
Oui, il s'agit de la décision modificative numéro 6 pour l'exercice 2018. Donc, je vous propose d'approuver les virements suivants qui figurent dans le rapport qui vous a été transmis. Cela concerne le budget ville. Il s'agit d'une régularisation d'écriture comptable suite au refinancement de l'emprunt du Crédit Agricole par la Banque Postale. Je souhaite porter à votre connaissance que le gain estimé est à ce jour de 54 000 euros pour ce refinancement.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On arrive donc au rapport 2.4.
Merci, Monsieur le maire. On va finir sportivement. Alors, le premier point de la délibération concerne la résiliation du bail commercial consenti au rugby Épernay-Champagne. La ville d'Épernay est en effet propriétaire de locaux situés au 15 rue de Lorraine, occupés par l'association rugby Épernay-Champagne, laquelle y a installé son clubhouse. La ville ayant sur ce site un projet d'aménagement urbain tel que présenté dans le projet de délibération, il convenait de rechercher les conditions d'une résiliation amiable avec la nouvelle équipe dirigeante qui, pour sa part, ne souhaite pas y poursuivre l'activité bar-restaurant. Dans cette perspective, la ville a mandaté le 7 septembre le cabinet Pierre Sopic, expert comptable près de la cour d'appel de Reims, aux fins d'une évaluation équitable. Monsieur Sopic a remis son rapport le 14 décembre 2018, estimant une valeur raisonnable du clubhouse oscillant entre 93 et 98 000 euros. C'est cette dernière donnée que la ville propose d'adopter comme indemnité d'éviction, comme cela est stipulé à l'article 3 du protocole d'accord, qui, un petit peu plus loin selon l'article 5, met fin aux obligations réciproques des deux parties. Le deuxième point de la délibération concerne la redevance relative aux panneaux publicitaires. Afin de participer au redressement financier du club, la ville propose d'accorder une occupation gracieuse sur les exercices 2018 et 2019 d'une partie du domaine public pour l'exploitation de 6 panneaux publicitaires. Avant de vous amener à vous prononcer et à en discuter, il nous a semblé légitime de vous faire une brève présentation du club pour la saison 2018-2019. Le REC, c'est 337 licenciés qui portent les couleurs de la ville d'Épernay, dont une école de rugby exemplaire qui compte 145 jeunes. Le REC, c'est aussi, avec Strasbourg, le seul club de la région Grand Est évoluant en Fédéral 2, c'est-à-dire au quatrième niveau national, niveau auquel le club a l'ambition de continuer de jouer avec un maximum de joueurs issus de l'école de rugby et du nouveau centre d'entraînement installé en septembre dernier. Le REC, c'est aussi l'émergence de féminines, une dizaine aujourd'hui, on espère que ça va grandir. C'est aussi de nombreuses animations en milieu scolaire à Épernay et en secteur rural. C'est aussi de l'événementiel avec l'accueil cette année de France-Angleterre du tournoi destination féminine le 9 mars, des finales du championnat de France universitaire du 16 au 18 mai et enfin du fameux challenge international du vignoble qui a réuni 1850 jeunes participants en juillet 2018. Le REC, c'est aussi le club qui attire régulièrement le plus grand nombre de spectateurs au stade. Le REC, c'est enfin un nouveau comité directeur de 9 membres, élu à l'issue de l'Assemblée générale du 6 juillet 2018, avec à sa tête Marc Sesma, un président qui tient un discours de vérité, qui est un homme de challenge et qui entend clairement mener un projet raisonnable et raisonné de redressement, de restructuration et de développement sportif du REC. Sur les plans fonctionnels et administratifs, le REC, c'est 2 salariés, un CDI, un CDD, avec une masse salariale en baisse de 30% sur le nouveau projet. C'est 18 éducateurs et entraîneurs, tous diplômés, enfin 15 diplômés et 3 en formation. C'est 34 dirigeants. C'est un budget global de 460 000 euros. Alors, à titre comparatif, à ce niveau de compétition, ce niveau d'évolution, pardon, on se situe entre 1,8 million pour le plus gros budget et 550 000 pour un budget moyen. Il faut savoir que les nouvelles dispositions du club permettent d'assurer 44% de ce budget et nous ont présenté un prévisionnel positif de 17 000 euros. Vous connaissez les difficultés du club à ce jour. La situation financière du club a conduit le tribunal de grande instance de Châlons, convoqué le 20 novembre 2018, à placer le REC en cessation de paiement et en redressement judiciaire, en complet accord, bien sûr, avec le nouveau président. Le club dispose d'une phase d'observation de 6 mois pour démontrer sa capacité à redresser la situation, période à l'issue de laquelle il pourra bénéficier d'un plan d'échelonnement de remboursement de la dette. Nouveau rendez-vous, d'ailleurs, avec le TGI est prévu. Alors, je ne sais plus si c'est le 15 janvier ou le 15 février, sachant qu'il y a également un rendez-vous avec la DNACG le 15 janvier ou le 15 février. Je ne sais plus dans quel ordre ça se situe. Un mandataire a été désigné pour s'occuper du passif, sachant que les dettes constatées avant le 20 novembre donc, sont pour l'instant gelées. Il s'agit de Maître Isabelle Troussan. Et un administrateur pour assurer la continuité de l'activité, il s'agit de Maître Élodie Bell. Sportivement, le club occupe actuellement une honorable 9e place à 4 points du 5e. Il y a un nouveau rendez-vous donc, qui est fixé avec les directions nationales d'aide et de contrôle de gestion placées sous l'autorité de la Fédération française de rugby. C'est une instance qui a compétence administrative, juridique et financière, qui peut décider éventuellement d'une rétrogradation en fédéral 3, ceci dit, avec possibilité d'appel par le club. Toutes ces considérations sportives, administratives et financières nous amène à vous inviter à adopter les différents termes de la délibération tels que je viens de vous la présenter, à savoir en particulier le montant de l'indemnité d'éviction à 98 000 euros, la remise gracieuse de la redevance relative aux panneaux publicitaires pour l'année 2018, ainsi que son exonération pour l'année 2019. J'ajoute que je veux bien croire que ces différentes instances judiciaires et sportives seront sensibles à cette démarche et à cette volonté municipale au service du sport à Épernay.
Merci. On peut ajouter que le président du club est venu présenter en commission, je crois, le projet de redressement qu'il a élaboré. Des questions sur ce rapport, Marc Lefebvre.
Oui, c'est des questions, propositions, déclarations. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accédé à ma demande de joindre au projet de délibération la lettre de mission et le rapport d'évaluation de l'expert. Il faut sauver la pratique du rugby à Épernay. Toutes les équipes, et notamment les équipes de jeunes, mais il faut la sauver dans la clarté et dans la transparence. Quelle est donc la situation réelle? La situation sportive semble relativement bonne, mais quelques inquiétudes se jouent avec le commentaire du journal local sur le match d'hier à Ris-Orangis. Je cite, « Avec une équipe amoindrie, le REC dominait les défections. » Donc ça m'a interroger cette phrase. Pourquoi y avait-il tant de défections? En revanche, c'est la catastrophe financière.
Ils ne sont pas à l'abri de blessures ni de.
Oui, je ne pense pas qu'il y avait dans le propos du journaliste non.
Ah bon?
Non, il faudrait lui poser la question, mais.
D'accord, vous me rassurez. Très bien.
Ils ne sont pas dans la salle, celui qui suit le Racing et qui. Le rugby Épernay-Champagne est plutôt
revanche,
quelqu'un qui suit de près le club.
En revanche, c'est la catastrophe financière. Cette situation est connue d'un certain nombre de personnes depuis un certain temps. Le sujet était tabou. Il n'a jamais été évoqué en commission des sports. Nous l'avons appris plus en détail lundi dernier en commission d'administration générale, où nous devions prendre position sur la délibération proposée ce soir. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint sport, depuis combien de temps êtes-vous au courant de cette situation? Vous avez assisté d'une part aux assemblées générales annuelles et d'autre part, vous recevez chaque année le compte-rendu des objectifs. L'association est obligée de vous fournir un rapport annuel en tant qu'association percevant plus de 25 000 euros de subventions. Voici la situation difficile du club présentée lundi dernier. La situation qui daterait de juin 2017. Endettement de 380 000 euros, déficit de 180 000 euros, dette fiscale de 100 000 euros, etc. Je n'ai pas tout noté. Le club est en cessation de paiement et en redressement judiciaire. L'activité restauration a fait l'objet d'un redressement fiscal, comme vous le savez. Un plan de redressement est en cours. Une nouvelle équipe dirigeante est en place. Quel est le plan proposé par la municipalité pour sauver le club ? Voici ce que la municipalité propose, le versement d'une indemnité de 98 000 euros pour résiliation du bail. Alors, quelques observations sur cette résiliation. Quand ce conseil municipal a voté le 26 juin 2018, donc un bail pour 9 ans, et rétroactif au 1er juin 2016, le rugby connaissait déjà sa situation financière, ses graves difficultés, et savait, semble-t-il, qu'il allait arrêter son activité de bar-restauration. Quand avez-vous été au courant de ces problèmes ? Pourquoi avoir établi un bail alors qu'il n'en existait pas auparavant ? Par ailleurs, la nouvelle équipe dirigeante ne veut pas poursuivre cette activité et ne demande pas de vendre le fonds de commerce. La municipalité avance le fait qu'elle veut récupérer le terrain pour transférer la crèche Tom Pouce et faire une opération immobilière. Cela est tout nouveau. Vous n'aviez pas encore ce projet immobilier le 26 juin dernier. De plus, lors du conseil municipal privé consacré à la révision du PLU, je vous ai demandé pourquoi vous n'aviez pas retenu cette zone parmi les OAP. Vous m'aviez alors répondu que cette zone devait rester en l'état et qu'il y avait donc le bail. Par ailleurs, pour sauver le club du rugby, vous nous proposez dans la même délibération d'exonérer le club du versement de la redevance de 38 000 euros sur les panneaux publicitaires. La délibération devrait s'intituler non pas résiliation du bail, mais sauvetage du club de rugby. En ce qui me concerne, et je le redis, je suis favorable au maintien de la pratique du rugby à Épernay, mais il faut le faire dans la transparence et non de manière déguisée. Donc voici ma proposition. Une subvention exceptionnelle, un prêt à taux zéro remboursable sur 10 ans, des engagements précis du club avec une baisse de la masse salariale, actuellement réduite à 160 000 euros, une comptabilité encadrée avec un suivi financier de la ville. Monsieur l'adjoint, vous nous avez dit que les joueurs étaient conventionnés. Bon. Que cela signifie-t-il ? Je n'ai pas eu le réflexe tout de suite de vous le demander. Il faut repartir sur des bases saines et solides, que tous fassent des efforts, que le conseil municipal soit clair vis-à-vis des contribuables et de la population sparnassienne. Merci.
Je vais vous répondre sur plusieurs points, Monsieur Lefebvre. Sur le plan de redressement tel que vous l'évoquez, on n'est pas loin du compte. Je veux dire par là qu'on est, quand le président vient présenter une baisse de la masse salariale de 30%, quand il vient jouer la transparence et s'engage à faire preuve de transparence à l'égard de la ville, on est dans l'esprit de ce que vous évoquez à l'instant. Alors les montants, vous évoquez une subvention exceptionnelle, on peut l'imaginer, mais quelque part la remise que nous proposons sur les panneaux correspond quelque part à une subvention exceptionnelle. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on était au courant que...
Non, je demande quand vous avez été au courant.
Tout simplement, les nouveaux dirigeants ont été élus début juillet. 6 juillet. Dans une atmosphère, j'étais à l'Assemblée générale, je peux vous assurer que c'était chaud.
Donc à 15 jours près, on n'aurait pas fait le bail.
Comment ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais si vous voulez... Attendez, le problème n'est pas là. C'est que au mois de juin, effectivement, après de longues discussions avec l'ancien dirigeant, on se met d'accord sur un bail parce qu'on sait très bien qu'une activité... on peut pas faire comme si une activité commerciale n'existait pas. Elle existe au vu de tout le monde. Et à ce moment-là, personne n'imagine, surtout pas moi, et pas Pierre non plus... que l'activité commerciale va s'arrêter. Et quand la nouvelle équipe dirigeante prend... D'autant qu'il était question à l'époque que l'ancien président devienne salarié du club et continue d'exercer pour le compte du club la gérance de cet établissement. Et j'ai eu des discussions au cours de l'été avec le nouveau dirigeant et j'étais persuadé personnellement que cette activité allait continuer. Et puis c'est après la décision a dû être prise aux alentours du mois de fin septembre début octobre par le nouveau dirigeant qui après avoir fait les comptes du club et avoir commencé à échafauder un plan de redressement à partir d'un volume de dette qu'il ne maîtrisait pas totalement, puisque on était parti, dans mon esprit, et je crois que dans l'esprit de Pierre, on était aux alentours de 180 000 euros de dette. Et on découvre qu'il y en a 200 000 de plus. Donc, évidemment, ça suscite, je crois pouvoir dire, pour avoir eu de nombreux échanges personnels avec Marc Sesma, le nouveau président du club, que lui comme moi, on voyait l'addition augmenter de jour en jour, parce qu'en recoupant les éléments comptables, en allant rechercher les créances des uns des autres, le montant paraissait effectivement beaucoup plus important. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a annoncé, début octobre, qu'il ne redémarrerait pas la saison du Clubhouse, parce qu'il pensait que s'il voulait baisser la masse salariale, il fallait qu'il se sépare du Clubhouse, sachant qu'entre-temps, on avait appris que l'ancien dirigeant avait ouvert lui-même un commerce en son nom propre à l'ancien café des sports situé près des casernes, là-bas, des anciennes casernes, et que ça ne lui paraissait pas jouable de maintenir cette activité commerciale. Donc, alors vous pouvez me croire ou pas me croire, mais je pourrais ressortir des SMS et des échanges téléphoniques que j'ai avec lui. Voilà, il s'est adapté à la situation. Alors, ça n'est pas le tribunal qui a décidé de placer ou de déclarer d'office, comme ça peut être le cas quand c'est un créancier qui dénonce une situation au tribunal. C'est le dirigeant lui-même qui a demandé la mise en cessation des paiements du club pour pouvoir avoir un temps pour négocier avec ses créanciers et pour pouvoir bénéficier du régime du redressement judiciaire qui va lui permettre d'élaborer un plan de redressement. Il a commencé à le faire, il l'a fait avec, à mon avis, je trouve, avec une réactivité assez remarquable, qui s'est d'ores et déjà tourné vers un certain nombre de sponsors et de nouveaux sponsors qui arrivent vers le club. Et d'après ce qu'il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il a indiqué en commission, je n'étais pas, mais que pour lui, d'ici 3 ou 4 ans, le club serait totalement redressé, revenu à une situation parfaitement normale, par les efforts qu'il a accomplis, par le plan de redressement qu'il a élaboré avec une équipe de 9 personnes, avec des gens très qualifiés, très impliqués, souvent parents des jeunes, etc., avec une véritable ambition sportive du groupe senior jusqu'aux plus jeunes, qui, encore une fois, rappelons-le, sont une véritable pépite à l'échelle sportive. Quand on voit ce que fait ce club, qui a en plus l'inconvénient d'être placé très souvent dans une zone parisienne, puisque le club est sportivement rattaché à l'Île-de-France pour les équipes de jeunes, qui jouent donc contre les équipes les plus huppées de la région parisienne. Quand on voit le travail qui est fait, je vous invite une fois à aller au Challenge du Vignoble, qui est une des plus belles manifestations que nous avons chaque année. Il y a une véritable équipe à la tête du club aujourd'hui. Il y a une transparence qui avait sans doute pas préalablement, ça je le reconnais volontiers. Il y a une approche très professionnelle du dirigeant du club actuel, qui est un haut cadre d'une grande entreprise locale, qui s'est doté des moyens comptables, financiers, juridiques et humains à travers une équipe de 9 personnes où il y a de vraies compétences comptables, de vraies compétences en termes de marketing, etc. Autant dire que c'est véritablement un changement heureux pour le club, et je suis personnellement très heureux et très rassuré par les premiers retours que nous avons de l'action de ce nouveau pouvoir sportif au sein du REC. Pierre, tu veux peut-être ajouter des éléments ?
Oui, non, mais je pense que, de toute façon, ce que tu viens de dire, Marc a dû l'entendre lorsque le président est venu à la dernière commission. Il a un langage de vérité, il n'a pas caché l'état qu'il a découvert, que nous, on a découvert aussi, parce que je peux te dire qu'au mois de mars, on en était à 180 000 euros, et là, l'ancien président devait éventuellement reprendre la gestion, etc. Donc, ça aurait pu permettre. Et en fait, il s'est rendu compte au mois de septembre ou d'octobre qu'on était à 380 000, comme il nous l'a annoncé l'autre jour. Donc, effectivement, ce n'est plus la même chanson. Donc, pour notre part, on a toujours voulu accompagner le club. On a versé plusieurs avances. Il y a eu un premier problème lors de l'accession en 2009 en Fédéral 1, parce que la Fédéral 1, c'est l'antichambre des pros. Ça veut dire que ça coûte très cher. Et donc, on a eu un premier problème là. On a aidé le club. On a toujours suivi avec, non pas des subventions, mais avec, en plus des subventions de fonctionnement, avec des avances. Des avances qui sont remboursées selon un échéancier qui court jusqu'en 2022 et avec un reliquat en 2023. C'est-à-dire que sur la subvention de fonctionnement, tous les ans, on déduit 16 500 euros. Donc, voilà, la subvention qui touche actuellement prend en compte cette régularisation qu'on avait déjà proposée avec le RCEC, par exemple. Donc, on a toujours accompagné le club. L'idée, c'est quand même, il y a plus de 300 jeunes qui sont là. Et effectivement, on se doit de soutenir ce club, de l'accompagner. Et on a souhaité, effectivement, régulariser une situation qui ne convenait pas, effectivement, qui n'était pas celle qui devait être. C'est ce à quoi on travaille. On a rencontré à plusieurs reprises les anciens dirigeants, les cabinets comptables, les nouveaux dirigeants. Croyez-moi qu'on y a passé des heures et des réunions avec les services qui sont derrière nous en ce moment, avec le maire, avec le service des sports, pour essayer de faire en sorte que la situation sportive et la situation, bien sûr, financière soit stabilisée dans les meilleurs délais. Il nous semble aujourd'hui, tu parles de transparence, que tout est mis sur la table et que c'est la solution pour sortir quand même un des deux clubs de région Grand Est de l'ornière dans laquelle ils se sont mis.
J'ajouterais que on a souhaité faire appel à un expert auprès de la Cour d'appel parce que on n'était pas capable, à notre niveau, de regarder la somme auquel le club pouvait prétendre au titre de l'indemnité d'éviction. Il l'a fait de manière très détaillée en évoquant les modes de calcul des différentes indemnités d'éviction. Donc on s'est calé sur ces recommandations. Que Pierre évoquait la situation des clubs de rugby, elle n'est pas florissante au niveau du rugby amateur, puisque le club de Strasbourg a déclaré forfait et n'a pas joué contre Épernay premier match parce qu'ils avaient 880 000 euros de déficit. Oui, peut-être plus d'un million. 38 emplois aidés. Enfin, il y a dans le rugby une vraie difficulté parce que je pense qu'il y a des clubs qui ont fait tout et n'importe quoi, qui ont bricolé et qui aujourd'hui se retrouvent pour certains d'entre eux dans une situation catastrophique. Je rappelle quand même que l'année où on est monté en Fédéral 1, les quatre clubs qui figuraient en tête du championnat ont tous déposé le bilan à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'ils avaient recruté à tour de bras des professionnels et ils ne les ont pas payés pendant la saison. Donc il y a quand même un problème dans la gouvernance du rugby qui interroge parce que, à la différence du football, que je ne porte pas en modèle, mais qui a quand même une vieille tradition de contrôle des comptes depuis les quelques scandales qu'il y a eu il y a 15 ou 20 ans, le rugby vient progressivement. Et tant mieux si le club, à la faveur de cette crise, rebondit avec une nouvelle équipe dirigeante. C'est ce qui est, à mon avis, essentiel dans cette affaire, c'est que le club s'en sorte, que la dynamique qui existe au niveau de l'école de rugby, au niveau de l'encadrement du club avec des gens comme Marc Sesma, avec Laurent Dema, etc., font un travail absolument remarquable depuis des années, vont pouvoir enfin gérer le club de rugby comme ils auraient souhaité qu'il soit géré avant. Je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas peut-être intéressés plus tôt à la gestion du club qu'ils ne l'ont fait à partir du mois de juillet dernier. Quoi qu'il en soit, le plan qu'ils nous proposent me semble parfaitement responsable dans ses orientations et dans ses mesures de redressement. On demandera d'ailleurs au président du club de venir régulièrement nous tenir informés de la manière dont les choses s'opèrent, y compris dans les relations avec la fédération. Mais voilà, on est dans une situation où il faut permettre à ce club de sortir la tête de l'eau.
Et là, ils ont 6 mois pour démontrer qu'ils sont capables de reprendre le club, de le restructurer, de le faire fonctionner. Et pour ma part, j'ai tendance, franchement, à leur faire confiance.
Monsieur le maire, convenez que nous nous sommes réunis pour le plus, que vous nous avez présenté 9 OAP.
Pas du tout. Mais non, mais il n'y a pas besoin.
Et que ça ne faisait pas partie, cette zone-là des Crayères, des OAP. Je vous l'ai même fait remarquer, puisque nous avions, il y a 6 ou 7 ans, nous sommes allés avec nous sommes allés sur cette zone.
Je me souviens très
on
bien.
On était à 4 ou 5.
Un soir,
vous
très
y étiez, et moi aussi, oui. Avec Monsieur Vigne.
Je me souviens très bien.
Et j'allais citer
cet exemple. Il a toujours été envisagé d'aménager ce secteur-là. Et dans mon projet municipal de 2014, je mentionne dans une proposition qu'on va déménager la crèche Tom Pouce dans le cadre d'un projet immobilier qu'on a toujours identifié dans ce secteur-là. Alors pas forcément à la place du club de rugby, mais dans ce secteur-là, pour la simple et bonne raison qu'on a une disponibilité foncière aujourd'hui d'un hectare, que vous savez comme moi que l'un des handicaps d'Épernay, c'est qu'on n'a pas d'espace pour construire, que notre objectif n'est évidemment pas de construire la totalité de l'espace. C'est que ça reste avant tout un espace vert, mais qu'on a là un terrain absolument magnifique avec une orientation plein sud. J'ajouterais même qu'on avait à une époque même pensé installer le ballon captif à un moment dans ce secteur-là, puisque ça avait été parmi les sites qui avaient été identifiés. Et pour nous, ça pouvait parfaitement convenir avec la présence du club de rugby à côté. Mais on n'a pas, enfin, l'idée d'aménager ce site, je ne peux pas vous laisser dire qu'elle vient de, elle sort du jour au lendemain. Attendez, on a quand même une vision de ce site depuis très longtemps. On sait très bien le potentiel qu'il a. On connaît parfaitement son orientation depuis des années. On a déjà travaillé avec Pluriel Novilia à plusieurs reprises sur le sujet, parce qu'ils sont venus à plusieurs reprises nous interroger sur la disponibilité et la chronologie de la disponibilité de ce site. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on découvre le potentiel
là, on voit
de terrain.
C'est un prétexte, simplement.
Mais non, pas du tout. On avait même sur l'arrière de ce. Et c'est là qu'on envisageait d'aménager. On avait même sur l'arrière de la parcelle d'anciens cours de tennis qu'on a laissés en zone de stationnement momentané pour pouvoir ensuite envisager un projet plus ambitieux. Monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire. Oui, à la lecture de. La délib qui nous est proposée, évidemment, on ne peut que se poser quelques questions. Je crois qu'il faut, bien évidemment, je partage le souci de la majorité municipale de faire en sorte de préserver l'activité sportive, là, ce qui est au départ l'entité. Et ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs. La proposition de mettre à disposition les panneaux ne me gêne pas du tout, hein, même si c'est du domaine public et Dieu sait si parfois je suis assez critique.
Je précise juste, si vous me permettez ce point, que sur ces panneaux, ce sont eux qui font les démarches commerciales, qui vont chercher les sponsors sont dessus.
C'est marqué dans le rapport.
Voilà, je le précise parce c'est un effort que beaucoup de clubs essayent de faire, mais là, il y a une vraie détermination à relever le club en allant chercher des partenaires privés.
Mais je voudrais venir plutôt m'attarder, assez brièvement malgré tout, sur l'autre partie, la partie, je dirais, commerciale. L'an passé, on a été sollicité pour remettre en ordre, par une délibération, une situation qui, là-haut, n'était pas conforme au droit, puisqu'on nous a proposé On a découvert qu'il y avait quand même quelques problèmes, contractuellement, entre la mise à disposition de cet endroit avec l'activité commerciale et le cadre de droit normal qui aurait dû présider à ça. Et ça datait depuis plusieurs années. Or là, moi, sur cet aspect, et quand je lis... ça me donne l'impression qu'on a eu que le rugby club a pendant de nombreuses années supporté un dirigeant quand même quelque peu léger avec les finances, voire peut-être y a-t-il eu un joyeux mélange des genres à confondre la poche gauche avec la poche droite, parce que il vivait cette je comprends que ça vivait de manière un petit peu erratique, y compris que le commissaire aux comptes, c'est indiqué dans le rapport de l'expert, n'a pas exercé de mission légale depuis plus de 4 ans. C'est-à-dire que, je ne sais plus comment il s'appelle, cet homme, peu importe, mais celui qui dirigeait ça, le restaurant, faisait un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, et personne ne s'en est rendu compte. Or, moi, ce qui m'amène à dire, je ne suis pas d'accord avec la proposition des 98 000 d'éviction, d'autant que le rugby club, la nouvelle direction, avait décidé de ne pas continuer l'activité commerciale. Donc, je me dis, allez, on efface, point, on met à disposition... Pas de problème, les panneaux publicitaires. Peut-être faut-il 5 ans au lieu de 3 ans, j'en sais rien. Hein. Ce sont des choses qui s'aménagent. Mais en tout cas, je ne suis pas pour passer pour perdre des profits comme ça. Et en plus, on paye de payer. C'est-à-dire les contribuables sparnassiens, ils vont payer pour... Allez, on ne peut pas dire que c'était une bonne gestion en bon père de famille. Mais enfin, c'était une gestion... moi, je trouve douteuse, je le dis, hein, et ça ne me dérange pas que les propos soient repris. Je parle de l'ancien tenancier, hein. Oui, d'ailleurs, le terme va bien.
Et les dirigeants ne sont... Ces dirigeants qui sont partis ne sont pas responsables, alors.
Ils ne sont pas poursuivis pour malversation.
Il n'a pas été poursuivi pour malversation. Il a été, il a fait l'objet d'un redressement fiscal particulier par les impôts. Puisqu'en fait, la difficulté du club, elle est venue du fait que une activité commerciale, on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois, une activité commerciale est née dans ce club et qui a plutôt d'ailleurs l'activité commerciale plutôt prospéré avec création de 3 emplois de mémoire. Et la difficulté, c'est que s'il y a eu redressement fiscal, c'est que les impôts considéraient qu'une association dans le 901 avait en fait une activité commerciale et les difficultés du club sont venues du fait que le redressement est intervenu considérant que le club aurait dû créer une entité commerciale spécifique à l'intérieur du club pour séparer les comptes de l'association et séparer les comptes de l'activité commerciale. Et le redressement à l'époque a touché le club et a touché le dirigeant du club. Mais bon, il n'y a pas eu de poursuite pénale parce qu'à mon avis, il n'y a pas de matière à poursuite pénale. Il y a simplement eu, il y a pas de détournement. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça. Maintenant, il y a eu dans la gestion comptable de l'association et dans la non-séparation des activités associatives et commerciales, c'est là que les impôts sont intervenus. Et d'ailleurs, quand on a évoqué la question avec le nouveau dirigeant, on a expliquer cette situation au nouveau dirigeant, qui l'a en partie découverte. Et en fin de compte, lui a décidé, au vu de ce que ça pouvait représenter sur la masse salariale, sur l'exercice actuel et les exercices futurs du club, compte tenu du nombre de salariés que ça nécessitait, il a préféré faire l'impasse sur l'activité commerciale en disant « je me recentre sur l'activité strictement sportive ». C'est ce qui fait qu'il présente aujourd'hui un budget qui, selon lui, devrait nous permettre d'accéder à un exercice positif dès cette première année, avec la volonté de résorber la dette, probablement en 4 ans. En tout cas, c'est ce qu'il m'a indiqué, c'est ce qu'il pensait pouvoir atteindre. Monsieur Angers.
Oui, merci, monsieur le maire. Moi, il y a 2 points qui m'interpellent. Le premier, c'est une association qui touche plus de 23 000 euros de la part de la ville. Donc, normalement, il y a une convention d'objectifs. Aujourd'hui, au travers de nos conventions d'objectifs et du retour d'information qu'on devrait avoir vis-à-vis de cette convention d'objectifs, on est infichu de déceler certaines dérives. Donc soit notre convention d'objectifs était trop générique pour être adaptée au cas circonstancié, soit nous devons travailler à avoir une convention d'objectifs qui doit nous permettre de maîtriser ce genre de dérive. Parce que, monsieur le maire, vous parlez de 380 000 euros de déficit. Si on rapporte ça,
c'est le dirigeant qui l'a présenté. Hein,
si on rapporte cela aux contributions ou au soutien subventionnel de notre collectivité, ça représente quand même quelques années d'engagement de crédit de la collectivité au sein de cette association qui, en parallèle, part en fumée. Donc moi, je pense qu'il y a un travail nécessaire de bordage et de toilettage de nos conventions pour qu'on puisse ne plus avoir de trous tels que celui-ci dans la raquette. Ça, c'était ma première réflexion, qu'on fasse usage du problème pour qu'on renforce le cadre dans lequel on apporte des crédits collectifs aux associations. Le deuxième point qui m'interpelle, et là, plus du cadre sportif, et qui me fait appréhender quand même cette délibération avec une sensibilité un peu particulière, à un moment où le rugby est secoué quand même par quelques décès de jeunes sportifs prématurés, parce que le rugby est devenu un sport qui n'est plus un sport d'évitement, mais qui est un sport de rapport de force, et tout ça, c'est les dérives, malheureusement, y compris à nos niveaux, de la professionnalisation de ce sport. Il était question tout à l'heure d'emplois conventionnés. J'espère qu'on n'est déjà pas dans une démarche qui tourne vers la professionnalisation, y compris dans des petites divisions telles que celles dans lesquelles petite division, ça n'a rien de péjoratif, puisque notre club est au niveau régional, évidemment, l'un des deux avec Strasbourg, mais qui correspond quand même à la quatrième division nationale. Donc y a-t-il professionnalisation? Que signifie conventionnement? Parce que c'est un petit peu inquiétant, parce que ce qu'il nous faut sauver aujourd'hui, à mon avis, j'étais malheureusement pas là à la commission des finances pour être à l'écoute, mais ce qui me semble important de sauver, si on veut sauver ce sport, c'est l'école de rugby, parce que c'est à partir de là qu'on apportera une certaine touche, une certaine sensibilité des jeunes et une approche quand même différente de ce sport. Donc j'ai un regard particulier par rapport à cette dimension-là, tout en soulignant quand même, et je reviens pour clôturer à mon premier point, qu'il y a quand même matière à encadrer ça de manière différente pour une collectivité telle que la nôtre.
Deux petits éléments de réponse. On est forcément d'accord sur la nécessité d'une école de rugby, je le dis dans toutes les assemblées générales, dans tous les clubs. S'il n'y a pas de jeunes, s'il n'y a pas d'école, il n'y aura plus de club. Donc, tu le sais très bien, qu'on suit très attentivement l'école de rugby, je l'ai mentionné tout à l'heure, ils sont 140, c'est une école remarquable, elle est exemplaire au niveau de la région Grand Est, par les éducateurs qui sont là. Donc là, on est forcément d'accord, l'école de rugby est indispensable et on la soutient. Mais tu sais aussi qu'une école fonctionne, qu'un club fonctionne aussi parce qu'il y a une équipe Fagnon, une équipe phare. Et là, on l'a, notre équipe phare.
Qui est d'ailleurs largement le fruit du travail de l'école de rugby, puisque à la différence de ce qui existait il y a 10 ou 12 ans, il y a une bonne partie de l'effectif, ou en réserve ou en senior, qui vient du club, de l'école de rugby. Hein, c'est,
formé au club. Ça fait partie du projet, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, l'objectif, c'est qu'il y a un centre d'entraînement qui vient d'être créé. Il y a l'école de rugby, des jeunes, 145 jeunes.
Explique-nous, parce que le centre d'entraînement...
Centre d'entraînement a été créé au mois de septembre. Ça concerne 25 jeunes du 14, du 16, du 18, qui ont un profil, on va dire, prometteur pour le club et pour le sport, et donc qui ont un entraînement supplémentaire, et qui sont suivis aussi, par exemple, le mercredi après-midi, par des parents, par des familles, pour un accompagnement scolaire. C'est-à-dire qu'il y a appelons ça si on veut, un petit peu, école de rugby, école section sportive, où on suit les jeunes gens, là, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan scolaire, que sur le plan... Voilà, on les accompagne. Donc là, ils sont 25 et ça a été créé au mois de septembre. Ça fait partie du projet de restructuration du club, du projet de développement sportif du club. Donc ça, c'est un premier point, bien sûr, très important. Emploi, comment on a dit, conventionné. Bon, on sait qu'à ce niveau, la masse salariale, je vous l'ai dit, elle est de 160... je ne la retrouve plus... 161 400 euros. Ça veut dire qu'il y a deux emplois, mais les entraîneurs, les coachs, ils sont indemnisés. Il y a aussi des primes de match, on le sait, niveau.
Ils sont même embauchés.
Et de toute façon, c'est obligatoire. Donc, à ce niveau, on est obligé, un entraîneur est obligé de disposer de tel brevet fédéral, ça ne peut pas être, brevet d'État, pardon. Donc, forcément, qu'ils sont rémunérés. Là, le budget, donc, la masse salariale qui a baissé ou qui baisse de 30% et donc de 161 000 euros, à titre indicatif, en fédéral 2, la moyenne de la masse salariale est de 440 000 euros. Pas la moyenne, pardon, la plus élevée, excusez-moi. 440 000 euros, la moyenne est de 110 000. Donc là, on est dans les normes.
Et le chiffre que tu donnes, c'est avant la baisse de 30% ou après la baisse de 30%?
Pardon?
Le chiffre de la masse salariale, c'est avant la restructuration ou après?
Après la réduction de 30%, sans souverain.
Je pense,
oui. Oui, parce qu'il y avait les emplois, du bar. Je pense que cela...
Non, je pense qu'il passe la masse salariale purement sportive.
À mon avis, il y avait la masse salariale qui existait.
Bien sûr.
Qui existait était celle notamment du clubhouse. Il y avait un cuisinier, il y avait des emplois qui n'avaient rien à voir avec le rugby.
Si, Jonathan. Comme dirait l'autre, on va laisser les spécialistes de la spécialité se prononcer, mais quand même, il y a, dans le rapport de l'expert, il y a quelques trucs, il y a quelques aspects qui sont...
Soyons honnêtes, s'il y avait une excellente gestion...
Excuse-moi, Pierre. Pardon. Je voudrais finir, c'est très bref. Le fait de dire que, sans doute, le gérant n'était pas rémunéré, où passait l'argent, quand même, par ailleurs, le deuxième aspect... que j'ai remarqué dans le rapport, c'est dans le choix pour fixer l'indemnité d'éviction. Il y avait des choix moins onéreux.
Il y en avait plus onéreux,
mais il n'a pas pris le moins onéreux. Non, mais je veux dire, il y a des choses dans le rapport qui posent question. Voilà.
Ouais. Très sincèrement, je pense que le rapport de l'expert, qui est plutôt bien fait parce qu'il énonce la manière dont on doit estimer un fonds de commerce. Il évoque les différentes solutions et il préconise celle-là qui consiste à partir notamment de l'excédent brut d'exploitation à faire l'évaluation. Elle est difficilement critiquable parce que d'abord, elle a été faite souverainement par l'expert. Il aurait pu nous en proposer une autre. Il propose celle-ci parce que très certainement, que, compte tenu de l'expérience qu'il a, il est président de la commission des experts de la Cour d'appel. Hein, donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine réputation. Il nous a interrogés, il a interrogé le club, il a cherché à voir le comptable, l'ancien comptable, parce qu'il y a eu des changements de comptable aussi qui n'ont pas facilité les choses. Il a pris son temps pour faire cette étude et je pense qu'elle est difficilement critiquable. Alors maintenant, on pourrait toujours dire, notre intérêt était peut-être qu'ils choisissent... Non, mais notre intérêt était peut-être qu'ils choisissent une estimation plus basse. L'intérêt du club était peut-être qu'ils choisissent la plus haute. Bon, je pense que quelque part, celle qui est faite là, elle a un vrai support comptable et juridique, elle est inattaquable.
On a choisi la conclusion qu'il dit raisonnable. C'est sa conclusion, c'est la dernière ligne du rapport.
Cette conclusion, si elle est adoptée ici, elle couvre quand même une gestion pour le moins erratique de ce qui s'est passé depuis plusieurs années au club.
Oui, mais... Attendez.
Je partage l'idée sur les...
Non, mais elle le... Monsieur Richard, elle ne bénéficie pas, la décision qui est là, elle ne bénéficie pas aux anciens dirigeants, elle bénéficie aux nouveaux. Hein, donc il va de soi que ça va lui permettre d'opérer le redressement du club comme il le souhaite, en parfaite transparence. Et je demanderai à Pierre, compte tenu de la situation particulière, à ce que le dirigeant vienne régulièrement informer la commission. Comment ? Non, du tout. Aucun n'avait de responsabilité dans le club. Les seuls responsables
dans la maison, les choses se sont passées et manifestement, voilà. Alors moi, c'est des interrogations. En même temps, je ne veux surtout pas, par rapport à la nouvelle équipe, au contraire, je vous souhaite bonne chance.
Monsieur Richard, je veux être très clair sur le sujet. Aucun des dirigeants actuels n'avait de responsabilité dans le club précédent, si ce n'est des responsabilités pédagogiques pour certains dans l'école de rugby. Pour Laurent Desmas notamment. Qu'il n'y avait pas de candidat non plus les assemblées générales précédentes, il faut reconnaître que le club ne présentait aucun candidat ou aucune équipe susceptible de se substituer à l'équipe dirigeante ou aux dirigeants passés. Et que... J'ai appris personnellement la candidature de Marc Sesma au début de l'été et j'ai appris d'ailleurs qu'il avait été lui-même dirigeant d'un club de handball dans le passé au niveau national en région parisienne et que c'est probablement parce qu'il avait cette compétence que d'autres parents du club, parce que ce sont avant tous des parents, je crois que Marc Sesma a ses trois enfants au club, quand ils ont su que lui avait ses compétences, ils ont mis un petit peu de temps pour le convaincre d'accepter cette mission. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus facile qu'il ait faite dans sa carrière de dirigeant. Il le fait avec beaucoup de rigueur. Il est extrêmement lucide sur la situation du club et lucide sur les chances d'arriver à redresser ce club. Je pense qu'on ne peut tous que souhaiter qu'il réussisse. Et encore une fois, le coup de cette résiliation du bail commercial, qui était de toute manière quelque chose qui était juridiquement fondé, bénéficiera à la nouvelle équipe. Donc on ne vient pas récompenser quelque part une mauvaise gestion, on vient encourager ceux qui vont remettre le navire à flot.
Alors on se donne les 6 mois, je pense, et sachant que la DNACG peut éventuellement rétrograder le club, mais à ce moment-là, on peut aussi faire appel. Rétrograder, ce serait Fédéral 3, bon, là, ce ne serait pas non plus une catastrophe, mais on peut aussi faire appel de cette décision. Et la DNACG ne fait pas de cadeau non plus. Hein. Elle a rétrogradé l'an dernier 10 clubs.
Faut oui, mais elle a, elle a en même temps, j'ai eu des échos, des retours par la CNACG, elle a exprimé sa satisfaction devant la clarté du propos du nouveau dirigeant qui, sans attendre d'être convoqué, est allé lui-même voir la DNACG, expliquer son plan de redressement, expliquer la situation qu'il découvrait, et il a, j'allais dire, un crédit qui lui servira, à mon avis, lors des échéances futures vis-à-vis de la direction de la Fédération française.
Je suis d'accord pour aider le club, comme je l'ai dit, mais pas de manière déguisée, pas de prendre des prétextes. C'est le cas là,
mais
ce qu'on fait.
Quel prétexte ?
Ben, c'est le prétexte qu'on fait une OAP.
Non, ça n'a rien à voir, l'OAP.
Qu'on n'avait pas prévu.
Non, l'OAP. Vous mélangez deux sujets qui n'ont rien à voir.
Dans la délibération du bail, on n'a pas à faire apparaître les panneaux. On fait dans une autre délibération éventuellement.
Ah non, mais.
Là, il y a un petit peu. C'est un petit peu un
mélimélo.
Si, c'est un petit peu.
Non, mais il était plus logique. Et d'ailleurs, vous vous contredisez vous-même, puisque vous auriez souhaité qu'on appelle la délibération sauvetage du club. Dans le sauvetage du club, il y a deux mesures qui vous ont été présentées bien distinctement par Pierre. Alors. Si c'est simplement le fait qu'on n'ait pas fait deux délibérations différentes, mais une seule et même, très sincèrement, c'est du formalisme. Monsieur Angers.
Et je reviens à ma convention d'objectifs. Quid de nos conventions d'objectifs qui devraient nous permettre, dans la fourniture d'informations, de pouvoir anticiper un certain nombre de difficultés. Donc, est-ce qu'on va retravailler les choses, avoir des documents qui seront plus précis, plus exigeants par rapport à certaines associations à partir du moment où il y a des crédits importants qui sont avancés? Comment est-ce qu'on peut faire école, malheureusement, de ce cas particulier ?
Ben, je te propose d'y réfléchir lors d'une prochaine commission. Si ? Sur la rédaction d'une convention. Je te dis pas demain, mais d'y réfléchir pour les après-demain, si on veut.
Bien, sur ce rapport, avis contre. Il n'y a pas d'autres questions ? Avis contraire, abstention. Deux abstentions. Le rapport est adopté. Je vous remercie. On en a fini avec l'ordre du jour et on se retrouve le 28 janvier pour l'examen du budget. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir.